à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Italie à Monza. On attendait une Dolce Vita pour McLaren, on a eu un Western Spaghetti par Liuzzi, Alonso qui a évité un désert rouge. Quant à Vettel, eh bien, la vie est belle, comme d'habitude. Pour m'accompagner, fidèle au poste, je ne vais pas lui demander s'il a eu un bon week-end, il l'a eu, même si on peut vous révéler qu'il sera le mois d'août dans le prochain calendrier Pirelli. Bonjour Dino.
Ciao à tutti. Bonjour Shiji.
Bonjour.
Oui, je serai dans le mois d'août. Je risque de dépasser un petit peu sur septembre, mais je serai au moins dans le mois d'août.
Il était gentil chez Pirelli.
Très gentil. Ah. D'ailleurs, je vous ai ramené un petit souvenir, mais je vous ferai découvrir quand on aura découvert notre invité. Shiji.
Ah oui, quel est notre invité? Quel est notre guest?
Ah, c'est un grand guest.
Bonjour tout le monde.
C'est le Kevin.
Le
pas Kevin. Un. Non, c'est pas un Kevin, c'est le Kevin.
Le Kevin.
Celui qui est à l'origine de tout. Et entre nous, on l'appelle aussi Kevinou, hein.
Eh oui, fallait pas nous le dire.
Bonjour Kevinou.
Bonjour Kevinou.
Non, faut pas regretter.
Pas quand même.
Donc voilà, Kevin qui est un nouvel auditeur, non? Enfin.
Oui, ça fait pas longtemps que j'ai découvert le SAV.
Puis ça y est, t'as eu la révélation.
Ouais, franchement, ouais. Voilà.
Et tu vois, il nous envoie un mail et hop!
Direct dans l'émission, comme ça.
Ouais, ouais. C'est vrai que ça fait plaisir, en fait, de trouver une émission comme ça où on peut parler de F1. Je peux pas beaucoup parler de F1, en fait, avec mes amis, alors.
C'est ce qu'on nous dit souvent, les gens qui viennent, ils disent, ouais, j'ai pas forcément beaucoup l'occasion de parler à F1. Mais merde, tout le monde devrait aimer la F1!
Ouais, non, mais c'est clair.
Mais je peux vous dire que moi, ce week-end, qui était dans le paddock club, eh ben, j'ai pas croisé beaucoup de monde avec qui parler F1. J'aurai l'occasion d'y revenir, je pense.
Il ne voulait pas ou tu ne pouvais pas.
Mais c'est-à-dire que le paddock club, c'est... Alors c'est... Oui, il y a deux choses. D'abord, il y a la langue. C'est-à-dire que je suis allé quand même en Italie, vu que j'ai fait de l'italien dans ma scolarité, et que c'est une langue que j'aime beaucoup, mais que je pratique plus depuis quelques temps. Je suis parti en Italie en me disant, bon alors, bon là tu vas en Italie, t'essayes de parler italien. Sauf que du coup, à Monza, les gens ils parlent l'italien, et ils parlent l'anglais, et dans ma tête, moi je parle le français. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me parlait, j'avais toujours un petit décalage déjà au départ pour me dire dans quelle langue il me parle. Parce que surtout, ça m'est arrivé d'entretenir une discussion avec le responsable web de Pirelli, puisque j'étais invité par Pirelli, que je remercie d'ailleurs, s'ils écoutent l'émission, vous savez jamais. Je me suis retrouvé à faire une discussion avec le responsable web de Pirelli, qui commençait en italien, qui finissait en anglais. Et dans les moments en anglais, il y avait dans une phrase, une même phrase, deux fois où j'utilisais des mots italiens. Voilà.
Oh, oh là.
Et on arrive à se comprendre. Et on a inventé notre langue. C'est la langue du paddock. Mais en plus, c'est quand même un endroit très particulier, Paddock Club, puisque, enfin, ce sont des invités, des grands partenaires de la F1, UBS, Pirelli, McLaren, Ferrari, Red Bull. Il y a quelques autres trucs. Et ce sont des gens qui sont invités pour faire du business, pour faire des affaires. Donc c'est pas forcément des gens qui sont très passionnés par la F1, qui connaissent vraiment, etc. C'est vraiment un événement mondain. Donc moi j'y suis allé en me disant ouais je vais être dans les coulisses de la F1, dans les coulisses de Pirelli, je vais avoir plein de trucs à dire. Et en fait je me suis retrouvé guest. Donc le samedi j'étais un peu déçu parce que j'ai pas fait tout ce que je pense pouvoir faire. Mais du coup, j'ai bien profité du dimanche, puisque je suis allé sur le Grand Prix dimanche en me disant « T'es un guest, donc tu vis le Grand Prix comme un guest. » Donc je me suis tapé une journée de guest. Et j'ai passé, je dois dire, un très bon dimanche.
Bah justement, début d'émission, forcément, question traditionnelle. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Bah je vous dirai rien, parce que moi j'ai vu que la ligne droite, alors. Je trouve
mais il s'est passé beaucoup de choses dans la ligne droite.
Je trouve que les ravitaillements étaient très intéressants.
T'as même pas revu la course depuis?
Mais oui, j'ai passé mon après-midi à regarder les qualifs et la course. Hey, oh. C'est d'ailleurs en regardant la course, j'étais énervé. Mais on y reviendra.
Et alors toi, Kevin, qui a pu voir la course puisque tu n'y étais pas?
Non, ben moi j'ai été agréablement surpris par la performance de Schumacher en fait, qui a bien tenu Hamilton derrière lui. Une domination encore une fois de Vettel sur le restant du Grand Prix quoi.
Assez impressionnant hein.
Ouais, c'est impressionnant hein. Et un beau carambolage aussi au début, enfin une belle partie de bowling pour Liuzzi au premier virage.
On va reparler de ça. Et donc Personne ne l'a nié, personne ne l'a le manqué, puisque tous les médias nous l'ont rappelé ce dimanche.
Ah oui. Mais tu veux pas un petit cadeau d'abord, Shinji? Parce que je vous ai ramené un petit cadeau.
Je veux bien.
Je veux, parce que quand on arrive sur ce Club Monza, on arrive du côté de la parabolique.
Oh.
Et donc, on longe l'extérieur de la parabolique, on passe sous un tunnel qui passe sous la piste, et on arrive dans le paddock après. Et pour accéder aux tribunes, etc., on passe par là. Et voilà ce que je vous ai ramené en arrivant. Donc voilà, ça c'est la fin des essais libres 3. Voilà. C'était juste pour vous faire. Sérieusement, le bruit c'est impressionnant. J'avais déjà entendu des F1, notamment au Stade de France, où le bruit est impressionnant par la configuration.
T'avais pensé à prendre des protections quand même?
Oui. j'avais un stock dans la valise.
Non mais disons-le pour les gens qui ont quand même l'intention d'y aller, pensez-y.
Bien évidemment, c'est obligatoire. Mais je parle en expérience de quelqu'un qui a souffert des oreilles et qui en souffre encore. C'est obligatoire au bord du circuit où vous allez voir n'importe quelle course automobile. Vous prenez des bouquets ou un truc dans le genre. Et surtout pour les gamins, vous investissez
encore
si
plus,
possible
ouais.
Dans des casques anti-bruit. Les bouquets, c'est même limite pas suffisant. Faut vraiment essayer des casques anti-bruit pour les gosses. Plus ils sont petits, plus les oreilles sont fragiles. Et il faut vraiment faire très très attention à ça.
Si les pros en mettent, hein, c'est pas pour rien.
Oui.
Donc merci pour ce petit cadeau.
Mais de rien, t'en merci, auras un autre si je dis, mais juste pour toi.
Ah. Oh. De toute façon, je serai mort dans 2 jours, donc.
Oui, si je dis, j'ai pas envie de se suicider ce soir.
Non, je vais me faire tuer. Donc, ce dimanche, hein, nous étions le 11 septembre.
Quoi?
Et donc?
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite. c'est pas drôle en fait.
Nous étions donc le 11 septembre, vous ne l'aurez pas oublié, et nous allons remonter au 11 septembre 813. C'était le sacre de l'empereur d'Occident Louis le Pieux, qui bizarrement, on ne sait pas si ce qu'il aimait dormir ou non. C'est le fils de Charlemagne.
Non mais ce qui est très drôle, c'est que dans ma tête, je venais de me dire « Ah c'est bien, grâce au 11 septembre, on n'a pas parlé de l'affaire DSK. » Et toi juste derrière, tu dis
« Quel est le rapport entre Louis le Pieux et l'affaire DSK ?»
Cherche bien, je dis, cherche bien. Je suis sûr que tu vas te trouver tout seul.
Oui, bon, c'est bon. Tu vas loin, tu vas loin. Plus proche de nous. Et j'ai revérifié l'info 2 fois. Le 11 septembre 1609, les Hollandais découvraient l'île de Manhattan.
Waouh.
C'est pas une blague. Les Hollandais qui ont acheté l'île de Manhattan aux Indiens. Et alors, est-ce que vous savez combien ils l'ont acheté?
Non.
Ils ont acheté leur monnaie.
Bah, ils l'ont acheté. En fait, ils l'ont acheté avec des objets, des choses comme ça. Mais on a estimé la valeur des objets.
Bon, je sais pas, allez, 1000 dollars.
Kevin, une idée?
Ah, je dirais peut-être moins, je dirais 500 dollars. Mais...
Eh bien, les Hollandais ont acheté l'île de Manhattan 24 dollars. Ce qui ne fait pas très cher du mètre carré.
C'est juste le prix, en fait.
Voilà, 24 dollars, faut dire que pour les Indiens, la notion de propriété privée, c'était pas trop leur truc, hein. Donc, tiens, on vous achète l'île pour des breloques et machin. Ah, mais évidemment, dès qu'ils l'ont acheté, ils ont dégagé les Indiens.
Oui.
En bon européen. Sinon, on est encore aux États-Unis, mais c'est une naissance. Le 11 septembre 1940, c'était la naissance de Brian De Palma, le cinéaste, donc, Snake Eyes,
Oh putain! J'adore, on lui dit Brian De Palma, le premier, c'est Snake Eyes. Oh merde.
Quoi?
C'est vendre des réalisateurs.
Bah non, quoi, Snake Eyes avec son faux travelling.
Bah je sais pas, bah de Brian De Palma, qu'est-ce qu'il y a d'autre
Le Dahlia Noir.
Non mais plus vieux, attends, c'est
plus sorti. Les Incorruptibles.
Bah voilà, il y a quand même ça plus Star à parler.
Starfish.
Ah là.
Quand même, hein, quand même. Charity.
Oui.
Pour ceux qui aiment Stephen King. Hein, donc,
ils sont rares. C'est moi qui vais me fâcher avec du.
Bon, tu vas te fâcher avec une personne qui t'est proche, mais tu vas te fâcher avec une personne. Tu devrais t'excuser auprès de ton frère.
Oh, c'est mon frère, il me pardonne.
Et on est toujours aux États-Unis. Et là encore, j'ai revérifié deux fois l'info, puisque le 11 septembre 1941, c'était le début de la construction d'un bâtiment. Devinez de quel bâtiment?
Le World Trade Center.
Non, plus récent, le World Trade Center. Enfin, c'était plus récent.
Ouais.
D'ailleurs, c'est bizarre, ils l'ont détruit quand, celui-là? Parce que, un jour, je suis allé à New York, il y avait le World Trade Center, le lendemain,
il y avait même deux.
Non, le Chrysler Building.
Non.
La Trump Tower?
Non, mais j'ai pas dit que c'était une tour.
Ah, le pont de Brooklyn.
Non, j'ai pas dit que c'était à New York.
La Maison Blanche.
Le Pentagone.
Ah non.
Ouais, c'est le Pentagone.
Le 11 septembre, ils ont construit le Pentagone.
Non, c'est mieux. Terrible.
Mais c'est terrible, attends. Ils achètent Manhattan hein, en septembre, et tu vas me dire qu'il y a un truc en Pennsylvanie qui est arrivé le 11 septembre. Il se passe jamais rien en Pennsylvanie, merde.
Non, par contre, je te confirme, il se passe jamais rien en Pennsylvanie. Sinon, en 1945, c'est une naissance, c'est un sportif, c'est un footballeur, il est allemand, mais qui ça peut bien être?
Beckenbauer.
Exactement, Franz Beckenbauer. Joueur de foot, entraîneur de foot, président de foot. Alors, à la place de foot, vous pouvez mettre Bayern de Munich, hein, évidemment. peut-être le plus grand footballeur allemand de l'histoire et un des plus grands sportifs allemands, avec Schumi.
Le Schumi, quoi que Schumi est devenu un peu plus grand, ce qu'elle. Enfin, dans mon cœur, il est devenu très grand.
En 1961, c'était la création d'une association, même d'un fonds mondial. Est-ce que vous savez quel organisme a été créé en 1961? Je vous donne un indice. Alors, catch.
Hein?
La WWE.
Ah.
Ah, presque. Mais justement, c'est ça le truc qui est drôle.
WWA?
Non.
WWB?
Non.
WWF?
Oui.
Ah, c'est ça? Ah,
oui, c'est ça, c'est le World Wildlife Fund. Vous savez, le fameux logo avec le panda?
Oui.
Bon, bah, ça a été créé le 11 septembre 61.
C'est dingue. Et
je me dis que le WWE, avant, ça s'appelait aussi WWF, du même nom. Voilà.
Ah, il y avait un piège.
Et surtout, il fallait être un peu vieux comme toi et moi pour savoir que la WWE, avant, ça s'appelait comme ça.
Oui, bah, du moins, moi, c'est juste un peu plus vieux que toi et je le savais pas. Puis ça se trouve, Kevin Hou, il a 40 ans.
Non, non, pas du tout, non.
On passe en 1962 avec un groupe qui enregistre son premier single. Qui ça peut bien être?
Les Béatles.
Les Béatles. Et alors, est-ce que tu sais quelle chanson, quel a été le premier single des Béatles?
Love Me Do.
Exactement, c'est Love Me Do.
J'ai des trucs au pif ce soir et je tombe.
Donc qui a été enregistré le 11 septembre et qui est sorti dans les bacs le 5 octobre suivant. On est toujours dans la musique en 1965 avec un musicien américain qui est né donc le 11 septembre 1965.
Il a 46 ans.
Alors je peux vous dire qu'il est chauve. Il est né à New York. Il a un nom connu. Alors, c'est très intéressant quel instrument parce que il joue de la guitare, il joue des claviers, il joue de la basse, il joue de plein de choses. Il est connu peut-être plus pour la musique un peu électronique. Et son vrai nom est connu.
Il est américain?
Il est américain. Il aime beaucoup les baleines.
Ah oui. Ah, c'est gelé. Allez, je te laisse deviner, Kevin.
Alors là.
En plus, on parlait de DSK.
Il sort des skis toutes les 3 minutes. Alors... J'aime ce lien.
Franchement, j'ai aucune idée. Là.
Genre 4 lettres avec un Y à la fin.
Avec un Y à la fin.
Ouais. Si tu rajoutes les à la fin.
Oui, j'ai compris la blague. Avec les...
Ah, merci, j'ai dit.
Oui, mais faut connaître un peu l'anglais. Voilà.
Si tu rajoutes les à la fin, t'as un moyen de transport. Ah, c'est l'arniste là, j'ai dit.
Alors là, je vois pas. Franchement, je vois pas.
Quel est le roman qui parle de l'histoire d'une baleine?
Willy?
Ah, je crois qu'il est plus jeune que ce qu'on attendait, j'ai dit.
Ah ouais. Ah non, là, franchement, je vois pas du tout.
Bon, allez, c'est Moby.
Ah, Moby, ouais.
Et Moby, de son vrai nom Richard Melville, qui est en fait le descendant de Herman Melville, l'auteur de, donc, Dino.
Moby Dick.
Et là, si vous connaissez l'anglais, vous comprenez pourquoi il y a un rapport avec DSK. Donc, voilà, en hommage, il a pris ce nom de Moby, en référence à son ancêtre. Et en effet, lui aussi est de New York. Top pas.
Et d'ailleurs, son studio dans son appartement, je crois.
Oui, puis il a plein de disques dans son appartement, c'est un truc de malade. Sinon, on va passer à un événement. Oui, un événement plus grave quand même que la naissance de Moby, parce que c'est pas un événement grave, la naissance de Moby. C'est le 11 septembre 1973.
Ah bah ouais, ça c'est connu.
Voilà, c'est, Dino, tout le dire.
Bah c'est le coup d'état au Chili, la mort d'Allende
et l'installation
de Pinochet, voilà.
Allende, d'ailleurs, dont on a fait des analyses qui ont confirmé qu'il s'était bien suicidé ce jour-là, parce que c'est aussi ça. Il s'est suicidé lors de l'attaque du palais présidentiel. Il y avait des doutes, et donc voilà... On a fait des études. Alors, dans le monde, eh bien, très étonnamment, sachez que le 11 septembre est la journée mondiale de lutte contre le terrorisme.
Oui, bah c'est logique.
C'est finement trouvé, ouais. Hein.
Ce que j'admire, Sylvie, c'est que tu n'as pas fait ceux qui sont morts en 11 septembre, alors que tu avais le choix.
Oui.
T'as été classe, parce que t'as pas voulu départager, faire un tri, voilà.
Non, puis on n'a pas la journée. Hein.
Oui, c'est vrai.
Sinon, faut savoir qu'en Catalogne, eh bien, c'est la fête nationale.
Ah.
Voilà. Qui commémore la prise de Barcelone en 1714, lors de la guerre de succession d'Espagne. Voilà. Après un gros siège et tout ça. Donc c'est une fête nationale, hein, même si la Catalogne. Non, je vais rien dire parce que j'ai déjà plein de monde qui, je vais déjà avoir plein de monde sur le dos après. Et donc en F1 ce jour-là, eh bien, nous allons remonter au 11 septembre 1988. C'était déjà un Grand Prix d'Italie. Il a toujours lieu plus ou moins milieu septembre, début septembre, dans ces eaux-là. Grand Prix remporté par une Ferrari, remporté par Dino. Est-ce que tu viens?
Ah bah non, mais moi je le sais. Alors, faut demander à Kevin.
Moi j'étais pas né alors.
Bon, alors ça ne veut rien dire. Moi j'étais pas né au moment où Fangio il a gagné. Pourtant, je sais pas quand il a gagné, mais non, remporté par Berger devant Alboreto.
Exactement, et Eddie Cheever. Mais on s'en fout.
Oui, parce qu'on s'en fout. Je sais plus sur quelle marque il était, alors.
Non, c'est ça. Il était sur Arrose, bon. Il était sur Arrose Megatron.
Waouh.
Oui. Il était sur un Transformers.
Ah, quand tu penses au Transformers, quand on dit Megatron. Moi, je pense à autre chose.
Oui, DSK, tout ça, ok.
Même pas. Mais maintenant, oui.
Et donc, victoire de Ferrari, un peu exceptionnelle à double titre. D'abord parce qu'elle a eu lieu un mois après le décès d'Enzo Ferrari, quand même extrêmement fort, extrêmement symbolique.
Oui.
Et c'est aussi, la priorité, c'est que c'est la seule victoire de Ferrari cette année-là, et c'est la seule victoire hors McLaren. Cette année-là a été énorme domination de chez McLaren. Et donc, Dino, d'après toi, de quoi vais-je parler?
Oh non. Oh non, tu m'as pas fait ça, je dis non. Pas l'histoire de Ferrari ou un truc dans le genre.
Ça touche à l'histoire de Ferrari.
Les vainqueurs ou les...
Non, non, je te l'ai... Alors oui, parce que je dois vous dire ceci. Aujourd'hui est ma dernière émission. Je vais mourir dans 3 jours, étouffé dans de la mozzarella. De quoi j'ai parlé?
De l'Italie, de la mort d'Enzo Ferrari.
C'est pas ça.
La victoire de Berger.
Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Bah, c'est... Elle arrive juste un mois après...
Oui, mais quoi d'autre?
Bah, je sais pas, après j'ai pu écouter. Kevin, il a dit quoi après?
Bah pas grand chose après.
Ah bah tu vois, hein, c'est toi qui as mal entendu.
Dis que c'était la seule victoire Ferrari de la saison.
Ah oui.
Ah d'accord, oui, ça, je vois où tu veux en venir.
Voilà.
Tu vas me forcer à repenser à des saisons où Ferrari n'a pas gagné.
Je te l'ai dit, c'est ma dernière émission ce soir.
Oui, je confirme.
Alors, pitié, je n'ai que 27 ans, je ne veux pas mourir, hein, mais... Ce soir, nous allons parler des années de vache maigre, celle où Ferrari, la grande Ferrari. Alors, je suis gentil ce soir. Je ne vous demande que les années où Ferrari a eu une seule victoire. Je pourrais aussi vous dire les années où Ferrari n'a eu aucune victoire, car c'est un... Pardon. Écoute, il faut savoir être fan, même dans les mauvaises années.
J'aime que tu dis ça, je dis. Moi qui est nu Ferrari et ses pilotes dans leurs pires moments.
Ah bah justement, dis-nous, quels sont leurs pires moments?
Une victoire, bah il y a 2009 déjà.
2009, la Belgique avec Raikkonen, ouais. Exactement.
Il y a eu... Après, ça fait un bail. En plus, oui, comment ça s'appelle? Il y a Montezemolo qu'on a parlé, c'est moi qui ai fait l'article ce week-end, donc je devrais le savoir. 2005?
Exactement, le fameux Grand Prix des États-Unis. Donc, avec Louis.
Bon, après début des années 2000, on va éviter.
Oui, non, c'est bon.
C'est un souvenir trop dur. C'est trop pénible. Tu vois, moi, quand ils gagnent, je suis triste. Moi, j'aime bien quand ils font qu'une seule victoire, tu vois, ou quand ils en font zéro, c'est même mieux. C'est là où j'adore. Bon, après, je suppose, Kevin, que comme t'étais pas né, après, avant, tu sais pas, quoi.
Bah, il y a 88.
Bah oui. Oui. Ah, okay. Tiens, tu vois, il y suit, lui, au moins. Si on monte, en effet, avant Schumacher, pour dire avant Schumacher, quand même.
95?
Exactement.
À la victoire d'Alési au Canada?
Exactement.
Ouais, putain, je suis en forme. 94, peut-être?
Exact, oui. Berger, au Grand Prix d'Allemagne. Et à noter, je vais dire, parce que par contre, trouver quand il n'y a pas de victoire, c'est quasiment impossible, à moins d'être une bibliothèque. Entre 91 et 93, nada.
Waouh.
Donc, vous imaginez, entre 91 et 95, ça fait deux victoires.
Tu veux dire qu'il y a eu des saisons entre 91 et 93? Il y a eu de la F1 cette année-là.
Il y a eu de la F1.
Ah, je pensais pas. Et Ferrari participait au moins?
Oui. Avec des camions, c'est Prost qui le dit.
Ah oui, d'accord. Ah bon, c'est pareil, s'ils viennent avec des trucs révolutionnaires, tu m'étonnes qu'ils gagnent pas.
Donc après 91, on peut remonter en effet à 88, hein, Italie, Berger, 86, 0, et après, enfin, et avant, plutôt.
85, il y en a eu. 84, bah, il y en a eu, ah non, attends, 84. C'est 84, je me dis que 84, c'est Loda qui est champion. Donc automatiquement, Loda, Ferrari. Mais du coup, Loda, il n'est pas chez Ferrari, donc. Ah, je dirais 84.
Eh oui, Grand Prix de Belgique avec Alboreto. Ensuite, il y a 80, bulle, 73.
80, une bulle directe.
Bulle en 80, eh oui, et champion du monde en 79, hein.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui, 73, bulle, après, enfin, avant.
Avant?
Bah, je t'aide, en même temps.
Ça laisse plus beaucoup de possibilités, parce que, sérieusement, avant, bah, il y a 1950, sûr, ils ont pas gagné.
50, c'est sûr. Mais il y a plus d'années que tu ne le penses.
Ah bon? Sans victoire, Ferrari?
Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 années sans victoire. Et 5 années avec une seule victoire. T'as le droit de donner ta langue au chat. Hein.
Non, mais c'est un défi que tu me lances, la chenille. Donc on s'en était arrêté en 73.
À 73.
73.
On sait, voilà, à 50, c'est bon, et 73.
73, 71 peut-être, 70.
Raté.
72 alors.
72, Grand Prix d'Allemagne, Jackie X. Et 69, c'est pour ça que t'as dit 70. 69, bulle.
Bon, après il y a les périodes avec Lotus qui domine, 60, je sais pas, allez, je veux dire 60, 62, 63, en 63
alors,
plutôt.
Alors 62 bulles.
Ah ouais.
63, une victoire en Allemagne avec sortie. Il faut noter 65 et 67 bulles. Donc t'as quand même 65, 67, 68, 69. En effet, c'est l'époque du DFV, c'est l'époque de Lotus. On voit que c'est compliqué quand même. Hein.
Après, il doit y avoir 55.
C'est remonté à 62, donc 63 sorties, 55 exactement, Grand Prix de Monaco, Maurice Trintignant.
Doit y avoir... il y en a peut-être un en 59.
Pas en 59.
En 60, alors.
Grand Prix d'Italie, Phil Hill. Et alors, les deux bulles qui manquent, c'est 57 et 60. Oh, ça va, tu t'es bien débrouillé, on va dire. Bon... Quand c'est plus vieux, c'est quand même vachement plus dur.
ce qui m'inquiète, c'est que je connaisse aussi bien les échecs de la Scuderia.
Quand même, hein, quand tu regardes les années, bon, il y a quoi? C'est vrai, dans les années 60, t'as quand même 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, même jusqu'à 72. En fait, en gros, jusqu'à l'arrivée de Loda.
Oui.
Voilà. Et puis c'est vrai que t'as un gros creux quand même au début des années 90, mais après, globalement, ce qu'il faut retenir, bon, en même temps, j'ai mis la limite à 1, j'ai été gentil, j'aurais pu mettre la limite à 2, mais bon, j'ai mis la limite à 1, globalement...
Non mais après, à 2, il y a des saisons au début, Shinji, où il y a 8 Grands Prix,
voilà, c'est pour ça.
Sur 8...
Voilà, c'est pour ça aussi, mais disons, ce qu'il faut prendre le côté positif, oui, j'essaie de sauver ma vie, c'est pour ça.
Quel focus,
il y a deux années de suite. Non mais c'est vrai, il y a rarement deux années de suite.
Non, c'est vrai. Non, puis enfin quand aujourd'hui on parle de déception, Ferrari qui n'a qu'une victoire cette saison, faut quand même
l'accuser.
Ça quand même heureuse les équipes qui pendant 60 ans arrivent à avoir le même niveau de ils ont été champions dans chacune des décennies, enfin à part 80. Voilà, faut quand même relativiser certaines choses, quoi. Même pas, en 80, 90, ils n'ont pas été champions.
Oui, enfin, il y a que... En 99, ils n'ont pas eu le titre constructeur.
Ouais, mais ça, c'est pas important, moi, je parle du pilote.
Enfin, tu me diras aussi, c'est 99, hein. C'est pas 92, c'est 99. C'est les 90, mais bien tassé.
Ils ont quand même... Et même ça se sent, enfin, pour avoir été à Monza... J'ai pas vraiment l'impression que le public qui est sur le circuit soit là, soit inquiet du manque de victoire. Oui, ils aimeraient que la Scuderia regagne et redevienne la grande Scuderia qu'on a connue il y a quelques années. Maintenant, ils sont quand même très solidaires et puis ils savent que déjà l'histoire de l'écurie parle pour elle et que voilà, ils la soutiennent toujours parce que ça reste une grande écurie.
Alors après le passé, on va passer aux actualités.
Oui, c'est une émission record ce soir, messieurs.
Attends, parce qu'on a déjà fait des podiums à 5, ça m'inquiète, ça.
Attention, c'est un podium à 8 places.
Oh putain! Mais tu sais qu'il ne s'est passé que 2 semaines, hein. La pause, c'était avant le Grand Prix de Belgique.
Oui, je sais. Mais en fait, il y a beaucoup d'articles qui ont très bien marché. Mais soit on va revenir un peu plus tard dessus, soit c'est des chroniques où on n'a pas forcément grand chose à dire. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est flexible le podium. Mais oui, dans ma tête, dans le podium, s'il y a 8 personnes, je suis sûr qu'au moins il y a 3 endroits où on va avoir des discussions. Dans ma tête, c'est ça le podium. C'est des 3 actus où on va s'arrêter. Alors, 8e. 8e actu la plus lue. C'est une actu où on va peut-être pouvoir discuter, même si personnellement je ne l'ai pas lu. J'ai pas lu beaucoup de... Je suis pas très fort en actu hein, sur cette dernière quinzaine. C'est un article qui s'intitule « Berger juge Vettel, Hamilton, Alonso et Mercedes ». Non, je sais pas ce qu'il a dit.
Je l'ai pas lu celui-là.
Je l'ai pas lu non plus.
Voilà. Bon bah... bon bah c'est un... On va passer au 7e.
Parce que tu lis les trucs, mais tu lis même pas une fois l'article pour voir de quoi ça parle.
Shinji, attends, je suis parti à Monza, d'accord? Déjà, ok.
Non mais je te dis pas de lire en détail, juste de lire en diagonale.
Merde Shinji, faut aussi que t'assures derrière si tu dis pas les articles comme on fait.
Mais attends, c'est pas moi qui fais des podiums à 14.
Non, pas 14, 8 Shinji. Donc on va passer à la 7e place, en espérant que vous l'ayez lu. 7e place, un article qui s'intitule « Alonso et Coulthard font taire les critiques sur Vettel ». Je savais même pas qu'il y avait des critiques sur Vettel.
Bah, j'ai lu pour Alonso, mais Coulthard, j'avais pas vu.
Ah, vas-y, dis-nous ce que t'as lu sur Alonso.
Bah, j'ai vu que Alonso prenait un peu la défense de Vettel, parce qu'en ce moment, tout le monde n'arrête pas de dire que Vettel gagne seulement parce qu'il a la meilleure monoplace. Et qu'Alonso disait que, en gros, fallait, même s'il avait la meilleure monoplace, fallait quand même aller gagner les Grands Prix, fallait quand même y aller. Weber avait la même monoplace et ne faisait pas autant de résultats que Vettel, quoi. Ouais.
Non, puis c'est con de dire « Oh, c'est dégueulasse, il gagne parce qu'il a la meilleure monoplace. » En même temps, les gars, ça s'appelle le sport.
Oui. Oui, yes.
Non, et puis même, enfin c'est toujours terrible parce que la responsabilité du pilote, elle varie en fonction de la performance d'ensemble. C'est-à-dire que un pilote qui domine, on le dit de Vettel, on l'a dit de Schumacher avant, c'est forcément parce qu'il a une bonne voiture. Par contre, un pilote qui est pas habitué à dominer, mais qui fait une bonne course ou qui gagne, c'est son talent qui a fait la différence. C'est jamais la voiture qui fait la différence, c'est son talent. Non, c'est toujours pareil, c'est un mélange entre le pilote et la voiture. Maintenant, c'est toujours difficile. Il faudrait qu'on aille Hamilton ou Alonso à côté de Vettel dans la même voiture pour pouvoir comparer. C'est pareil dans la construction d'une équipe. Le pilote n'est pas là que pour piloter. C'est aussi une ambiance qu'il y a autour. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment ce pouvoir de galvaniser une équipe.
Non, c'est pas que la voiture. C'est une alchimie qui fait la réussite.
C'est un sport.
Tu mets une chèvre dans la Red Bull, mais une vraie, hein, une vraie chèvre. Elle gagnera pas.
Oui,
au pire, elle va manger les rétros, mais elle gagnera pas.
Maintenant, tu mets Kartikeyan dedans, une fausse chèvre. Elle gagnera pas non plus.
Voilà. Et peut-être que lui, par contre, mangera les rétros.
Non, puis c'est pareil, il y a aussi derrière quand on domine trop, il y a aussi un ressort mental. C'est très dur, surtout c'est là où je pense où Vettel est le plus impressionnant pour un pilote qui, rappelons-le, n'a que 24 ans. C'est très très dur de se retrouver et de dominer quoi, d'arriver sur un circuit et d'éviter de se dire mon week-end est terminé parce que j'ai fait le meilleur temps quoi. Alors qu'il pourrait se le dire, j'ai la meilleure voiture, c'est trop facile, etc. Il pourrait se le dire, mais il se le dit pas. Et pour un mec qui a 24 ans, c'est tentant pour un jeune homme d'avoir les chevilles qui gonflent, et lui, il les a pas nécessairement. Il reste très concentré, et c'est très dur de rester concentré. Il y en a beaucoup qui avaient de très bonnes voitures, et qui se sont flingués en plein vol, parce qu'ils avaient une bonne voiture, et que la pression leur est montée au ciboulot, et qui sont flingués en plein vol. Mais après, c'est aussi ce que je disais, moi, pendant les années Schumacher, c'est toujours facile de dire, la Scuderia a trop dominé, etc. Oui, enfin, faut aussi que les autres se bougent le cul derrière.
Ah, puis, on peut pas reprocher à une écurie de bien faire son travail. Je veux dire, c'est leur boulot de gagner les courses, de faire en sorte que la monoplace marche bien et tout ça, donc on peut pas leur reprocher de réussir leur travail, quoi.
Oui, voilà.
C'est comme si lors d'un concert, une chanteuse, une diva qui fait une superbe performance, on lui jette des tomates parce qu'elle fait une superbe performance. Alors bientôt, on va dire, un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre, c'est trop brillant, tu vois. Hein, les mecs sont trop bons, tout est trop bon, faut pas y aller. Automatiquement, je sais pas, quand tu penses les choses de ce point de vue-là, tu dis bah oui, effectivement, les gens sont cons de penser que la domination de Vettel en a marre. Même si on comprend cette frustration, mais
oui.
À un moment donné, on peut comprendre la frustration, on peut être frustré. Maintenant, il faut aussi avoir un certain recul et reconnaître que bah la saison est morte parce qu'ils ont mieux travaillé, parce qu'il y a un ensemble de choses qui font que c'est les meilleurs, tout simplement. Le meilleur gagne.
Enfin, il y a grosse domination, mais on a quand même une très belle saison.
Dans l'ensemble, oui.
Passe à l'actu suivante.
Oui, la sixième, je crois que c'est la chronique Pit Stop de Ben, qui s'appelle Les plus beaux virages de la F1.
Ah.
Où il fait un top 5 des plus beaux virages de la F1, où on retrouve ce qui est, selon moi, les plus grands classiques. Hein,
Ah, je l'ai devant moi, je peux le donner. Le top 5 hein, de Ben, donc du cinquième à la première, il y a le Turn 8 Istanbul, qu'on ne reverra plus, malheureusement.
Ouais.
Et qui mérite pas ce nom de Turn 8, donc c'est trop triste d'avoir un aussi beau virage avec un nom si banal. En 4, les S-curves de Suzuka. En 3, Maggot Beckett. En 2, on l'a vu ce week-end, la Parabolica.
Ouais.
Et en 1, le Rédillon, hein, bien évidemment, à Spa.
Ouais. Alors moi, je sais que je l'ai fait mon top 5, hein, bah, j'ai fait un top 5 où je ne tenais pas compte des virages qu'avait cité Ben, et en privilégiant des virages un peu lents, parce que il y a beaucoup de virages très rapides, enfin, beaucoup d'enchaînements très rapides. Et vous, ça serait quoi vos 5 virages préférés?
Alors,
Moi, je pense qu'il y en aurait certains de la liste de Ben. Je pourrais citer le S de Senna Interlagos. Quand même, un superbe truc. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Alors, il est pas forcément technique, mais Sainte Dévote à Monaco. Parce qu'il se passe toujours des trucs, voilà.
Bon, c'est rare.
Non, là, sur coup, c'est ceux qui me viennent à l'esprit autres que ceux qu'a dit Ben. Parce que je maîtrise certainement le Rédillon, Maggot Beckett aussi, ouais.
Et donc toi, Kevin?
Bah, moi, pareil, les S de Senna aussi, au Brésil. Je dirais le premier virage de Monza pour le départ, parce que c'est vrai qu'à chaque fois...
Oui, la chicane, ouais.
Après, comme ça, il n'y a rien d'autre. C'est vrai que le Rédillon aussi, pour moi, là, comme ça, je vois pas...
Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que c'est souvent les mêmes virages qui reviennent, quoi.
Oui, oui.
Oui.
Bon, bah, on passe à la cinquième, alors.
Eh oui.
T'as vu, ça va vite, Chidi.
En prolongeant un peu cette idée, Vrignot, sur son billet, hein, sur Eurosport, il a cette espèce de billet, là, où il met des articles façon blog, il a inventé le concept de Big Five.
Ouais.
Le Big Five, c'est, si je me souviens bien, c'est Monza, Spa, Monaco,
Suzuka,
Silverstone et Suzuka.
Ah dis donc, on aurait pu le deviner, tu nous l'aurais demandé, je suis sûr qu'on te le donnait dans l'ordre.
Ouais.
Bon, bah, on va passer à la quatrième actu, et qui n'est pas selon moi une actu, puisqu'on va en parler plus tard. C'est McLaren qui pointe du doigt la défense rugueuse de Schumacher à Monza.
Ouais, voilà. On en reparlera plus tard.
Ouais.
Ensuite, troisième, on a Alonso qui parle de la Formule 1. Encore une fois, je suis désolé, je l'ai pas lu. Je crois que c'est Axel qui l'a fait. Je sais globalement qui fait les articles parce que je suis dans l'admin, je vois qui fait, mais j'ai pas le temps de les lire, je suis désolé.
Ah. Donc voilà. Bah non, moi non plus, je l'ai pas lu. Donc,
moi non plus.
Et en même temps, Alonso qui parle de la F1, c'est un peu... Waouh.
Ah, il est super ce top 8 de l'actu. Ensuite,
bien la peine.
On a la deuxième actu. La FIA a demandé à Schumacher de faire attention lors de sa défense sur Lewis Hamilton.
Est-ce qu'on n'est pas dans le prolongement du même débat qu'on va avoir?
Voilà.
Voilà.
Et donc la première, les plus belles remontées en course, je crois que c'est la chronique hors piste d'Axel de la semaine dernière. Justement par rapport à la remontée de Michael Schumacher, où il revenait sur les remontées qui l'ont le plus marqué. Donc il y a celle de Raikkonen au Japon, je crois. Il y a celle d'Alan Jones. Non, pas d'Alan Jones, de Watson à Long Beach ou Détroit, je sais plus, en 83. Voilà. Ah, c'est pareil, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de débats.
Bah, c'est beau, des belles remontées, j'ai envie de dire.
Ouais.
Bon bah voilà. C'est tout pour le podium de l'équipe.
C'était bien la peine hein, d'en faire 8.
Non, mais le problème, c'est que là, on a le plus parlé, c'est sur les premiers.
Oui.
Alonso et Coutard font taire les critiques qui est 7e. C'est une actu. Le problème, c'est qu'on l'a pas lu. Berger qui juge Vettel, Hamilton, Alonso et Mercedes, c'est bien, c'est huitième, c'est bien. Il aurait pu y avoir de la discussion, mais on l'a pas lu. Donc moi je prends jusqu'à ce que je trouve trois potables pour parler. Et là, comme on les a pas lus,
on va passer à la citation. Est-ce que vous avez des citations?
Moi j'en ai une d'Hamilton.
Ah bah non, alors on va passer. Bon, oui, vas-y, allez.
J'en ai une où il y avait un article en fait sur lui où il disait qu'il voulait pas changer son style de pilotage malgré les critiques qu'on peut avoir sur lui. Mais moi, je voulais tout simplement dire que je trouve qu'il a sur ce Grand Prix à Monza, je trouve qu'il a vachement, qu'il s'est vachement, qu'il était vachement calme en fait, qu'il était moins agressif qu'aux autres Grands Prix. À part peut-être une tentative de dépassement Schumacher un peu.
Il a un peu rongé son frein pendant beaucoup de tours, Hamilton.
Mais en fait, moi, c'est-à-dire que sur la course, la manière dont je l'ai vu, c'est pas justement qu'il était calme, c'est que il a attaqué à chaque virage. À chaque virage, il a essayé de dépasser. Et je pense sincèrement que faut arrêter de dire que c'est le style de Lewis d'attaquer tout le temps. À un moment donné, c'est plus un style, quoi. À un moment donné, c'est de la bêtise. On voit Button, il a passé Hamilton. La première tentative qu'il a sur Schumacher, elle marche. Derrière, la première tentative qu'il a sur Alonso, elle marche. Il n'y a jamais de déchet avec Button. J'ai l'impression que Hamilton se jette sur n'importe quelle occasion qu'il a de faire un dépassement. Sauf qu'un dépassement en Formule 1, ça reste très difficile. Même si c'est un grand attaquant, ça reste très difficile. Et là, ce week-end, j'ai eu l'impression d'avoir un chien qui courait derrière la babale, qui n'arrêtait pas d'être derrière, qui a perdu énormément de temps à cause de ça et qui a perdu peut-être sans doute le podium là-dessus. Et je suis convaincu que s'il avait pris un petit peu de temps de faire ce que font généralement les très grands pilotes, c'est-à-dire de se mettre derrière, d'étudier la trajectoire, de regarder, etc., il serait passé. C'est quand même un circuit où on peut passer, où il y a les circonstances pour passer. Il serait passé, il n'y avait pas de raison qu'il passe pas, il est arrivé. Mais je sais pas, il voulait passer trop vite, il veut tout faire trop vite.
Mais c'est vrai que même là, à Monza, dans la ligne droite, je trouvais qu'il se décalait beaucoup trop tôt, en fait. Il prenait pas assez l'aspiration, j'avais l'impression. Et il voulait vraiment trop dépasser, vraiment trop vite. Et c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec Kobayashi en Belgique, en fait. Il a voulu encore une fois trop se précipiter et bon ça l'a conduit dans le mur, mais ouais. Là en fait à vouloir trop se précipiter à dépasser Schumacher, en fait il n'avait pas assez de vitesse pour moi pour le dépasser, et c'est pour ça qu'il a autant galéré à le dépasser, quoi.
Je me demande aussi si c'est pas une caractéristique des jeunes pilotes avec le GP2 etc, où ils ont tendance GP2 c'est souvent du carnage hein, les courses, oui. Parce qu'ils dépassent, ils essaient de dépasser n'importe quand, n'importe où, et je me demande si c'est pas justement cette nouvelle génération de pilotes qui est sérieusement trop téméraire et qui tente partout. Moi je trouve que ça me manque cette intelligence des mecs qui se disaient je vais perdre un peu de temps derrière lui, mais si j'essaie d'attaquer à tout va et que je trouve pas la porte, je vais perdre encore plus de temps, parce que en attaquant comme il l'a fait, Schumacher, lui, il ralentissait un peu. Il y a des fois où Schumacher, pour se défendre, est obligé de ralentir, etc. Donc, ce qui fait que l'écart, il a fait que s'agrandir par rapport à Alonso. Là où s'il avait attendu, je pense qu'il aurait perdu peut-être un peu moins de temps.
Ouais.
Alors, Dino, est-ce que tu as une citation?
Alors, j'ai une citation, oui. Donc, c'est une citation, hein. Je vais même pas vous dire qui l'a dite. Je vais te laisser deviner, Shinji.
Ah, ok.
C'est pas la génération de Kevin. T'as commencé à regarder la F1 quand, Kevin?
En fait, je regardais déjà quand j'étais petit, mais je m'y intéressais pas vraiment, et je m'y intéresse vraiment, en fait, depuis 2007. Vraiment, vraiment
quoi,
beaucoup.
Quand t'étais petit?
Quand j'étais petit, je regardais du
temps. Bonne année, 2007.
Je regardais du temps d'Olivier Panis, tout ça. J'ai commencé en gros à regarder vers 97, mais je m'y intéressais pas vraiment en fait à l'époque là. Et c'est vrai que je m'y intéresse beaucoup plus depuis 2007.
Bon, ça va, tu devrais connaître. Alors, ma citation, c'est « La course, c'est le monde de Michael. C'est sa vie. Je pense qu'à ce stade, il lui est difficile de vivre autrement qu'à un tel niveau de compétition. La vraie vie est assez éloignée d'un paddock de Formule 1. »
La vraie vie.
Et j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle.
C'est un pilote?
Oui.
Alonso?
Non.
Il court encore ou...
Non, il court plus.
Raikkonen?
Non.
Häkkinen.
Dans le numéro de F1 Racing.
De F1 Racing, oui.
Voilà. Que je n'achète plus, mais que là j'ai acheté puisque j'avais rien à lire. Donc.
Ils ont fait un dossier de vingtaine de pages, je crois au moins.
Oui.
Avec des interviews de tous les pilotes qu'il a affrontés, des petits articles sur certaines des voitures clés oui. Hein, de sa carrière. Une interview de Bertrand Gachot.
Hein, oui.
Qui dit que justement, malheureusement, il est un peu connu pour. Bon, il a eu son affaire là au Royaume-Uni qui a permis.
C'est terrible, il est connu que pour ça quasiment.
Voilà. Mais il le regrette pas. Enfin, il a fait chose. Et il dit même que quand il est revenu, Schumi a été un premier, voire même le premier à le voir. Donc quoi, voilà. Non, beau numéro, je trouvais. Beau
vous, vous découvrirez que Jacques Villeneuve peut être gentil. S'il y a bien un mec que je m'attendais à ce qu'il dise pas respect pour Schumacher, c'est lui.
Et que Hakkinen faire le whisky à la vodka.
Oui. Oui, parce qu'il y a deux interviews d'Hakkinen.
Oui.
Oui, il y a une interview sur Schumi et il y a FR Racing, ils font une interview avec des questions des lecteurs. Et il, comme par hasard, ce week-end, enfin dans ce numéro aussi, il est interview. Donc il a deux interviews. C'est un spécial Hakkinen et Schumacher.
Oui.
Et toi, Shinji, quelle est ta citation?
Ah bah, tu vas dîner, je pense que ça va pas être dur. À la fin de la course, j'étais tellement soulagé de les voir sains et saufs. Car oui, ils ne font plus de la F1 maintenant. Ils font du Koh-Lanta. Ils risquent leur vie à tout moment. Mais qui?
Le problème, c'est que j'ai fait une news où quelqu'un a tenu le même genre de propos, mais je me rappelle pas de l'histoire de Koh-Lanta.
Ah non, ça c'est moi qui le rajoute, Koh-Lanta.
Ah d'accord. Voilà, c'est facile.
Non, moi, ça s'arrête à sains et saufs.
Allez, Kevin, c'est facile, c'est pour toi ça, là. Je te la laisse.
C'est pas Christian Horner?
Ah, il est juste à côté.
Adrian Newey.
Ouais. Adrian Newey qui parlait de ses pilotes. Parce que, vous savez, on l'a vu pleurer. Ouais. On disait, oh là là, Adrian Newey, il pleure. Et en fait, alors c'est des histoires de carrossage, hein, vous savez, qui fait que les pneus s'usaient plus vite et tout ça. Et Adrian Newey, il avait peur. Il avait peur pour la vie de ses pilotes.
En même temps, c'est lui qui dépasse les recommandations. Hein.
Oui. Voilà.
Quand Pirelli dit il faut faire 4 degrés, pas plus, puis il fait 4,3. Ce qu'il appelle un cheveu. Ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un cheveu.
Plus de cheveux.
4,3, c'est pas un cheveu. Hein. Et voilà. Alors, apparemment, ils l'ont changé ce week-end.
Alors, la FIA a, en guillemets, donné raison à Pirelli en disant que les équipes devraient obligatoirement s'en tenir aux recommandations de Pirelli.
Ah, parce que du coup, ils étaient passés à 3,75 degrés par marge de sécurité, parce que Paul Embry avait dit qu'il serait plus sûr pour la prochaine fois. Et ils avaient dit, on peut pas aller en dessous, parce que du coup, ça deviendrait aussi dangereux. Par rapport au, parce qu'en fait, le carrossage aussi, ce qui est utile, c'est par rapport au vibreur, ça permet de bien les négocier.
Ah oui.
Et il disait, voilà, par rapport au vibreur, après, ça deviendrait trop difficile, ça serait trop de pression sur les suspensions, et donc il y aurait un danger sur les suspensions et également sur la structure du pneu. Donc en fait, c'est une fourchette assez serrée. Mais je crois qu'il aussi qu'il avait rabaissé à 3,25. Donc dans le même week-end, il... Allez hop.
Mais voilà, ils sont dans les recommandations de Pirelli. Voilà, c'est tout.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que Newey, il a quand même... il a le triste souvenir de la mort de Senna. Et que je pense que c'est quelqu'un qui a une relation avec ses pilotes aujourd'hui qui est très, je dirais pas fusionnel, mais il veut vraiment prendre soin, et même s'il flirte avec la limite, je suis pas sûr qu'il veuille que les pilotes soient les victimes de ses limites.
On va passer au qualif.
Ouf.
Et cette okay. semaine, c'est presque surprenant de le dire quand on connaît la suite, mais le 18e, notre chère place de con de la semaine, c'est Rémy Alguersuari sur Toro Rosso.
Oui, enfin, il est habitué à être con, Rémy.
Alors, explique-nous.
Non, c'est vrai, c'est souvent 18e.
Oui, souvent 18e, d'accord.
Oh non, j'ai croisé
plus dire autre chose.
Non. Oui, il est peut-être aussi un petit peu con, mais... Ça, je l'ai pas croisé, je peux pas dire.
Sinon, on notera, donc, en que deux, un Kamui Kobayashi qui fait que 17e. Pas terrible, ça.
Ouais, c'est un gros naze.
Buemi, lui aussi, qui n'est que 16e. Et oui, comme quoi...
Une grosse merde.
Après, on a des positions très marquées en fonction des écuries, hein, parce qu'on a Williams qui fait 13-14,
oh,
Force India qui fait 11-12.
Oh, les grosses tâches.
En Q3, on a, alors, ils nous avaient déjà régalé à Spa, deuxième course, alors là, en plus, c'est à Monza, c'est pas un petit circuit, 10e, alors, il n'a pas fait de temps, d'ailleurs, en Q3, Bruno Senna.
Oh, le perdant.
Non, pas mal quand même, Bruno Senna.
Ouais, mais il a pas roulé. Ça m'énerve. Il a pas roulé.
Là encore, tir coupé, 8 et 9. Schumi en 8 et Rosberg en 9. Et oui, Schumi, il a battu Rosberg en qualif, faut pas l'oublier. Petrov.
En même temps, il y avait pas beaucoup de virages, hein, donc. Ça l'aide, Schumi.
Petrov qui fait 7. Massa qui fait que 6. Enfin, c'est normal pour Massa, mais c'est vrai que Ferrari, ça, mais que 6. Ouais. Marc Webber, 5. Pas terrible, ça, Marc Webber. Là, tu peux le dire.
Pas terrible, Marc Weber. Gros nulard. Espèce de tâche.
Alonso qui ne fait que 4.
Raté de la vie.
Que vas-tu dire d'Alonso, il ne fait que 4?
C'est brillant. C'est brillant. C'est. J'arrive. Mais non, en même temps, on s'en fout de la position sur la grille. C'est ça que vous comprenez pas. Vettel, il part en pôle. Bon, c'est bien. Mais Alonso, il n'a pas besoin de partir. Il pourrait partir 21e, il finirait quand même premier. Pas de problème. Alonso, il est comme ça. Tu pars de loin, c'est pas grave. C'était très drôle la conférence, enfin, le podium après course quoi. C'était super chouette quoi. Donc tu dis mais qu'est-ce que t'as fait? Il dit bah tu sais.
Ah oui.
Bah, ils ont d'ailleurs très mal traduit sur TF1. Parce qu'ils ont dit ouais bah tu sais la prochaine fois je pourrais partir 5-6e. Non non en fait il dit je suis habitué à partir 5-6e. Forcément je prends des bons départs parce que je suis obligé de prendre des bons départs.
Donc ils ont mal traduit mais c'est drôle quand même.
Voilà. C'est surtout ce que j'adore, c'est que les mecs, ils ont quand même fait une course de 53 tours, et quand ils arrivent, le premier truc qu'ils trouvent à dire, c'est « Mais comment t'as fait pour son départ ?» C'est-à-dire quand même que les mecs se sont vachement amusés pendant la course, parce que t'imagines Vettel en train de conduire pendant 53 tours. « Mais comment il a fait ?» Comment il a fait? Eh les gars au stand, comment il a fait Alonso? Hein? Vous me rappelez? De quoi? Je rentre au stand. Non mais d'abord dites-moi pour Alonso, hein? Non, parce que là j'arrive pas à me retirer ça de la tête donc hein? Faut que je... Non mais Alonso, comment il a fait? Arrêtez sinon je m'arrête sur la piste.
Et donc tir coupé des McLaren qu'on attendait un peu à Monza. On sait que le Mercedes c'est quand même voilà c'est un gros moteur. Et malgré tout, ils ont été battus par une voiture qui a fait, je crois, c'était le plus mauvaise VMAX de toutes les voitures. Et ben, mais je crois que c'était un écart de 10 km/h, hein, facilement, hein. Et ben, ça l'a pas empêché de faire le meilleur tour, hein, Sébastien Vettel, en 1:22.275.
Tiens, je me rends compte que j'ai oublié une actu.
Sérieux?
Ouais.
C'est pas grave.
Non, bah, c'est Michael Schumacher et Bruno Senna qui sont en excès de vitesse à Monza.
Oh,
ça fait la 5e place. Mais ça, je dois dire que Romain, qui a fait l'article, il m'en a parlé samedi. Il était épaté, etc. Par le montant des pénalités, 12 000 euros, je crois, pour Senna. Et quand j'ai vu l'article, j'ai même pas cherché qui était l'auteur. Je suis sûr que l'auteur c'est Romain.
C'était donc la 25e pole position pour Vettel, la 33e pour Red Bull, la 188e pour un moteur Renault. Vitesse moyenne 253,477 km/h. Et oui, on est à Monza. On va passer à la course.
C'est d'ailleurs rigolo parce que quand on voit les vitesses dans les animations là sur les écrans.
Ouais.
Je me suis rendu compte aujourd'hui que la couleur change en fonction de la vitesse et à Monza là, ça va jusqu'au rouge.
Oui oui.
Ouais.
En général, ça va vers le orange et à Monza c'est rouge carmin avec un gros 300.
Mais c'est vrai que c'est sérieusement enfin je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des F1 en vrai.
Oui, mais elle roulait pas. Bref.
Mais c'est impressionnant dans la ligne des stands, ils ont une vitesse qui est hallucinante quoi. Je à un moment donné même, enfin dans le cas de Senna apparemment ça s'est vérifié, il était très rapide. Mais les mecs ils sont à 100 km/h dans les stands, 100 km/h, c'est là que tu te rends compte que 100 km/h c'est rapide. Et les mecs ils freinent genre à 10 mètres de leur box. C'est dingue quoi.
On s'en rend pas bien compte. Mais, enfin voilà, pensez à ce... Quand tu roules avec une voiture normale, quand tu roules à 100 km/h, ça commence, voilà, à aller vite. Sauf que eux, c'est au ralenti, quoi. C'est comme cet effet qu'il y a, quoi, quand tu joues aux jeux vidéo, ou en règle générale, dès que t'es en dessous de 100, t'as l'impression de te traîner.
Ouais.
T'es
ouais.
déjà à 100, 120. Parce que en réalité, ton cerveau et ton expérience rétinienne est tellement habitué à avoir un mouvement à 200, 250 km/h. Moi, je me traîne. Ah ouais, mais t'es quand même à 140, s'il te plaît.
C'est très drôle dans Gran Turismo quand justement, tu sais, tu vas faire une course avec des F1 ou des prototypes et que derrière, tu dois faire une course avec des Clio.
Passe à la course. Top 10 dont on va se souvenir, je peux déjà vous le dire.
Ah la vache. Ah ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous donner la liste, déjà, comme d'habitude?
Je sais pas.
Tu ne veux pas, tu ne... Non, c'est pas...
Attends, je regarde d'abord si ça me plaît. Ouais, ça me plaît. Ah non, il y a un truc qui me plaît pas.
Moi aussi, enfin, il y a...
Oui, y a un... Ah non, il y a deux trucs qui me plaisent pas.
Moi, il y a un truc qui est... C'est du vol. Honnêtement, je dis c'est vol, mais pas, vous allez voir, mais...
Attends, de quoi il parle? Ah oui. Je me suis fait la même réflexion, j'ai dit. Alors, ont été cités dans le top 10, sont en dehors du top 10, donc on en parlera que très rapidement. D'Ambrosio, hein, vous allez comprendre pourquoi j'ai bafouillé, puisque D'Ambrosio n'est pas dans le classement, puisqu'il n'a pas reçu de points. En même temps, il n'a pas été très loin dans la course. Mais tu me diras, c'est pas toujours valable. On a Ricciardo, qui est 23e avec 2 points. Nous avons en 20e position des ex-aequo, Petrov, Sutil et Glock, qui ont fait 14 points chacun. Nous avons 19e Maldonado, 16 points. 18e Kobayashi, 10 points. 17e Rubens Barrichello, 22 points. 16e Jarno Trulli, 24 points. 15e Sergio Perez, 30 points, 14e Kovalainen, 46 points, 13e Vitantonio Liuzzi, 50 points, 12e Weber, 63 points, et 11e Suspense, Buemi, 65 points. Et là, Shinji est en colère.
Ah, déjà, notons ce que... Alors, Dino, on peut noter que tu avais donné un point à Ricciardo.
Oui, j'ai contribué à la moitié des points de Ricciardo.
Alors, pourquoi un petit point à Ricciardo? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir?
Alors, je sais pas si c'est passé à la télé, mais Ricciardo a calé sur la grille.
Oui, on l'a vu, oui, de loin.
Et moi, j'étais juste en face.
Ah, d'accord.
Et je donnais un point parce que Ricciardo, il cale sur la grille. On le fait rentrer après beaucoup d'efforts de la part des commissaires. S'il a fallu, parce que, je sais pas, il avait dû bloquer un rapport de boîte, etc. La voiture pouvait pas avancer. Donc, ils ont réussi à le faire avancer, à le faire sortir dans la ligne des stands. Il est retourné dans son garage. Sauf que, vu ce qui s'est passé au premier tour, HRT s'est retrouvé avec aucune voiture. Donc, ils ont décidé de relancer le pilote.
Oui, ils l'ont ressorti, ouais.
Sauf que le mec, il s'est quand même fait toute la course en sachant qu'il avait strictement aucune chance. Bon, tu diras, il est habitué, il est HRT. Mais là, vraiment, il n'y avait vraiment aucun enjeu. Juste rouler. Et franchement, j'ai toujours envie de saluer ces mecs-là parce qu'il faut une sacrée force morale pendant que les autres sont en train de faire la course et de s'amuser. Toi, d'aller collecter des données, etc. pendant que c'est quand même un grand prix. Alors, c'est vrai qu'ils sont habitués à faire ça pendant les essais. Mais là, c'est quand même pendant un grand prix, ça doit être assez frustrant. Donc voilà, je voulais, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde non plus à classer, je voulais un peu saluer.
Sinon, tu as donné 2 points à Kova.
Oui, bah il fait une belle course, voilà. Puis je l'ai vu en vrai, donc.
C'est vrai que tu l'aimes bien.
Ah, mais j'adore Kovalainen.
Et aussi, j'ai noté, alors Buemi, moi je lui avais donné 1 point sur le classement. Bon, je trouvais que globalement, quand même, les Toro Rosso avaient fait une très belle course, donc je vais donner des points aux deux. Nick, Kevin.
Moi je lui avais mis 2 points, lui.
2 points, pardon. Voilà. Mais bon, il est 11e, c'est ça?
Ouais.
Avec 65 points.
Ouais.
Et c'est pour ça que je dis que c'est...
Avec une certaine marge.
Avec une certaine marge, c'est pour ça que c'est du vol. Mais en même temps, ça va être une bonne occasion parce que on va pouvoir parler justement de ce premier virage. Puisque, avec 85 points, vous avez donné 1 point à Rosberg. Alors, déjà, quand il fait des courses normales, qu'on le voit pas, vous lui donnez des points.
Oui, mais là justement, on l'a vu. Pour une fois qu'on l'a vu, les gens ont voulu mettre ça en avant.
C'est vrai qu'on l'a peut-être vu là, en un crash, que...
Ouais, mais en plus, il s'est fait battre par Schumacher en qualif. On peut même pas dire, ouais, vous lui avez donné 1 point à cause des qualifs, ou vraiment, il a été bon. Non, il a juste été battu par Schumacher en qualif, et il a fait 500 mètres en course.
Mais c'est une bonne occasion de revenir sur ce beau crash, hein, ce beau carambolage qu'il y a eu... Donc malheureusement, Rosberg y est passé, Petrov y est passé, Liudi y est passé, forcément.
Petrov qui a fumé. Hein. Vous avez vu le casque de Petrov?
Qu'est-ce qu'il avait, le casque de Petrov?
Alors, Sylvie, pourrais-tu, toi qui as une bonne mémoire, me rappeler la couleur du casque de Petrov?
Alors, il est aux couleurs de la Russie, donc il est blanc, bleu et rouge.
Hein, ok. Voilà. Alors,
avec un VP sur le dessus, toujours avec les...
Figurez-vous que je suis arrivé sur le circuit donc samedi midi, juste à la fin des essais libres 3. Et figurez-vous que la loge Pirelli se trouve juste au-dessus du garage, enfin légèrement décalé, mais quasiment juste au-dessus du garage Renault. Et là, quand j'arrive, je vois une Renault en train de se garer en épi pour rentrer dans son parking, dans son garage, et je vois un casque noir carbone. Je dis tiens, il est arrivé un truc à Petrov pour appeler Hitfeld. Non, en fait, c'est Vitaly Petrov qui avait un casque noir carbone avec juste derrière les armoiries de la Russie. Très joli son casque, hein. Ça, franchement, c'est un bel effet.
Ah non, et... non. Oh mon Dieu, non, t'es en train de dire une connerie. Oui, faut rappeler qu'il y a eu un grave accident d'avion où je crois que c'est une équipe de hockey qui a été décimée. Ouais. Puis bon, le hockey c'est quand même un des sports nationaux en Russie. Il y a des grands joueurs de hockey russes et puis comme ça d'Europe de l'Est qui sont malheureusement décédés. Et je pense que c'est pour ça qu'il avait un casque complètement noir.
Ça me rassure, du coup, tu vois. Parce que je me disais quand même, il a fumé un drôle de truc, Vitaly, pour prendre pour Hitfeld.
Voilà. Donc il faut qu'il travaille le dessin, on va dire.
Ouais, voilà. Non, mais c'est mais vraiment couleur carbone. Enfin, c'était très joli. Bon, c'est un peu triste maintenant que tu m'as dit ça. Ça m'a un peu détruit ce que tu viens de dire. Tu viens de te fâcher avec une personne déjà.
J'ai déjà été
oui, bon.
Dans 3 jours. Alors c'est. Non, mais sinon,
je vous donnerai son adresse.
Ce strike. Alors toi, est-ce que t'as eu l'occasion de le voir, pas en direct, mais
Franchement, c'est très dur de voir de là où on est. Le bout de la ligne est vraiment très loin. J'ai d'ailleurs été étonné parce que on prend pas conscience de la longueur des circuits, etc. Enfin, c'est vrai que en même temps c'est bête, mais quand on, comme tu disais tout à l'heure, quand on passe dans le jeu avec, ça nous semble très rapide. Et en fait, on a tendance à oublier que c'est vraiment une très longue ligne droite. Donc du coup, le bout, on les voit vraiment, mais un tout petit peu, quoi. Comme il y avait en plus le dépassement d'Alonso et puis la voiture de comment s'appelle de Ricciardo qui était calée sur la grille, mon attention a été un peu plus focalisée sur les tifosi qui étaient en train de faire la fête et sur la voiture de Ricciardo dont les mecs en face Daniel, on se foutait de sa gueule.
C'est logique. Mais tu l'as vu après.
Oui, je l'ai vu après, oui.
Et toi, Kevin?
Bah, moi, en fait, j'étais impressionné à la vitesse où Yuji, il a...
Yuji arrive, ouais. Et d'ailleurs, je vais... Tiens, vu que j'y pense, je vais en profiter pour donner mon drive-thru.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors, ça va pas être un drive-thru, mais plutôt, vous allez me dire, c'est un grand classique. Non. J'ai envie plutôt de le donner... Voilà. Je trouve
allez,
super...
Allez, devine,
Kevin. Devine, Kevin. Ça a trois LED et ça donne beaucoup de pénalités. Non, bien sûr, c'est la FIA, hein, voilà.
Ça faisait longtemps.
Qui a pénalisé Liu Zi. Hein. Alors bon, ouais. Déjà, le concept même de donner une pénalité de 5 places à une HRT...
C'est très drôle.
Oh, voilà.
Franchement, ouais. Quand j'ai lu ça, j'étais mort de rire. Les mecs, ils ont pas regardé un Grand Prix depuis le début.
Voilà, et puis même sur le principe, je la trouve dure finalement ces pénalités, parce que bon, alors c'est vrai qu'il a fait un strike, ça faut le reconnaître, hein, mais franchement il avait plus le contrôle de sa voiture.
Ouais,
je veux dire,
j'ai pas l'impression qu'au départ il fasse quelque chose de vraiment répréhensible, quoi.
Non, en fait, bon, il est derrière la GRT, normal, il essaie de doubler, c'est normal, et puis en fait il se décale un petit peu, il passe un peu sur l'herbe, et en fait c'est en revenant la vitesse, puis sans doute les pneus qui se passaient sales, et d'un coup, il perd la voiture.
C'est bizarre, ça l'a pas fait avec Alonso, ça.
Non, même Hamilton, tu vois, il
passe ouais. Sur l'herbe. Alonso, quand il met des roues sur l'herbe, il reste droit. Hamilton, presque pareil. Hamilton, c'est pas lui qui les met volontairement, les roues.
Là, Liotti, en fait, il passe sur l'herbe, il revient sur la piste, et en fait, c'est en revenant sur la piste, il perd le contrôle de la voiture, qui repart sur l'herbe, et puis là, elle est complètement incontrôlable, je veux dire, elle aurait pu partir sur le côté, bon, là, pas de bol, elle a continué tout droit à 250. Je veux dire, à la limite, il aurait pilé comme un malade, il serait rentré dans l'arrière d'une voiture, ok, mais là... Non, je trouve que c'était vraiment dur de mettre une pénalité, et puis, c'est aussi plus facile de mettre une pénalité de 5 places à HRT qu'à d'autres, voilà.
Oui, voilà. Ouais. Mais c'est surtout ça, c'est-à-dire que quand on voit certains comportements dans la saison de certains pilotes qui n'ont eu que des réprimandes, là on voit Luzzi qui a un accident de course, il se prend 5 places sur la grille, c'est vrai que c'est il y a une justice à deux vitesses.
Voilà. Donc voilà, c'était mon drive.
Je crois que je t'ai coupé, Kevin.
Non, c'était pour dire que c'était aussi mon drive que j'avais choisi à la base, mais
Eh ben t'en prendras un autre.
J'en ai un autre.
Ah. Voilà un garçon qui a bien tout préparé. Tu vois, c'est pas un vrai Kevin.
Et moi, j'ai un faux Kevin. C'est toi qui arrête pas de te défendre.
Ah ouais, tu m'as dit quand je t'ai dit, ouais, ce soir, on a Kevin dans l'émission. Il dit, ah, un Kevin, t'es sûr, ça va pas faire l'émission et tout.
Non, j'ai juste dit qu'il fallait pas que je me froisse avec Kevin parce que j'allais déjà me froisser avec des millions de gens ce soir.
Oui. Hein, on pense que dans le futur, il y aura des Kevin présidents.
On va passer à la 9e place du classement. Hein, avec un vrai pilote qui a fini la course. Oui, il a fini la course. J'en vérifie quand même. Il a marqué 139 points. Je lui ai mis 2 points. Kevin lui a mis 1 point. Dino lui a mis 4 points. C'est la Force India de Di Resta.
À chaque fois, je l'ai vu que vers la fin quand on lui a demandé d'attaquer parce qu'il y avait Senna qui arrivait.
Moi, je l'ai mis 10e. Je sais même pas pour. Fallait le placer. Je préférais mettre les autres devant. Devant du reste, en fait.
Ça m'a semblé vraiment très dur de trouver les 3 ou 4 derniers du top 10. Plus dur que d'habitude,
oui.
Toujours un petit peu des arguments. Et là, vraiment...
On va dire les 5-6 premiers, il n'y a aucun souci cette semaine. Je pense que personne n'a eu de problème. Bon, à part minimum l'ordre, il peut varier. Les 5-6 premiers, je crois qu'on s'en souvient tous, plus ou moins. Et c'est vrai qu'après... Mais faut dire aussi que même au niveau de la réalisation... Bon, on n'a pas trop vu le premier parce que bon, voilà. Après, on s'est quand même très concentré entre la 2e et la 5e place à peu près pendant quasiment toute la course.
Mais même moi, du bord de la piste, hein, la bataille Schumacher-Hamilton, j'ai quasiment vu qu'elle. Voilà. Ah oui, puisque ça passe tellement vite que tu peux pas t'arrêter sur chaque voiture et te dire ah tiens c'est bien lui il est bien placé etc ou lui il est en train de se battre. De là t'es obligé de choisir un truc que tu vas suivre.
Monza c'est court entre guillemets.
Bah, c'est quand même les meilleurs qui passent toutes les minutes 15 et ça passe tellement vite que des fois je voyais passer Vettel, je me dis mais il a fait combien dans ce tour là il vient juste de passer, il repasse. Voilà, je te dirais ça.
Passons dans ce cas-là directement au 8e. Il a marqué 167 points. Alors moi, je lui ai mis que 4 points, parce que pareil, j'avais des gens à mettre devant. Et mais Dino et Kevin, vous lui avez donné 8 points.
On est des malades. On est des fous.
Non, mais c'est vrai qu'il fait une très très belle course.
Alors qu'on n'a pas vu, encore une fois, ce qui est beau, c'est la remontée, quoi. Il est 18e.
Oui,
et
oui.
Et il termine 6e. C'est, encore une fois, c'est le genre de position qu'ils aiment bien au départ. J'ai l'impression vraiment que ils aiment bien partir 18e et arriver dans les points, quoi.
Mmh. Non, parce que là, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de crash, mais ça n'explique pas tout.
Non. Non, parce qu'en plus, il faut quand même réussir à passer le crash. Voilà, parce qu'il est quand même derrière au moment du crash.
Il est derrière, ouais.
Il est pénalisé, il faut quand même réagir à ce moment-là. Et ça lui a pas pénalisé. Enfin, lui, il a rien eu, alors qu'il y en a certains qui auraient pu perdre des points. Lui, il a rien perdu, donc.
Quand tu vois Barrichello, par exemple.
C'était beau. Oh, il a été Barrichello. Le petit coup de je repars sur la piste en montant sur un vibreur. Oh. Je suis en haut du vibreur. Du haut de ce vibreur, 20 ans de Formule 1 me contemple.
Et mon aileron avant aussi.
Oui, voilà.
Me contemple. Quelque chose à rajouter sur Alguersuari?
J'ai l'impression qu'il est en train de prendre l'ascendant sur Buemi.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est vrai que ces derniers temps, il fait plutôt des belles courses, contrairement à Buemi. Enfin, on voit plus Alguersuari progresser que Buemi, j'ai l'impression, ces derniers temps.
Il y a tellement de... faut qu'il sauve sa tête hein. Bon c'est ouais, mais... ça sera pas chez Red Bull l'an prochain
sur l'ensemble de la saison j'ai l'impression que il a été plus constant mais plus présent, il a montré plus de choses que Buemi qui après une saison 2010 très décevante, Buemi il a fait un bon début de saison 2011 mais ça a pas non plus cassé de trois pattes à un canard. Ouais, là c'est vrai que Alguersuari fait quand même des grosses perfs quoi. On sent que faut quand même le faire de ramener la voiture de la 18e à la 6e place, il l'a fait une ou deux fois cette saison, faut quand même le faire, faut aller le chercher et lui il le fait quoi. Alors même si c'est vrai que c'est une stratégie décalée qu'apparemment la Toro Rosso elle adore ce genre de mission, bon voilà. Mais faut réussir à le faire et il le fait.
Ils avaient qu'à remettre le setup de Vettel d'il y a 4 ans. Bon, il pleuvait pas, mais bon.
Ça a pu les aider.
Oui. Sur ce, passons à la 7ème place.
Oh non.
Il a marqué 365 points.
Il y a
de bons gaps entre les pilotes hein, cette semaine, hein, faut bien le dire. Je lui ai mis 8 points. Dino, tu lui as mis 10 points. Kevin, tu lui as mis que 4 points. C'est Philippe Aro.
Ah.
Bon, ouais.
Qui est un peu...
Il fait une putain de course. Il fait une putain de course. La course elle est gâchée dès le départ par Weber qui fait n'importe quoi sur lui.
Oui.
Il fait un tête à queue. Il arrive à repartir. Déjà indemne parce qu'il y en a quand même d'autres derrière qui auraient pu lui rentrer dedans. Il arrive à repartir.
Ouais.
Sans dégâts, mais bon, qu'il faut quand même le faire, reprendre un rythme de course avec une voiture qui a été percutée, il faut quand même quelques tours avant que tu sois sûr que tout fonctionne bien avant de pouvoir attaquer. Sur un circuit comme Monza, faut quand même avoir une sacrée perte de coronet, ou avoir, être très confiant dans la solidité de ta voiture. Et, il a fait une très bonne course. Moi, je l'ai tout le temps vu dépasser. À chaque fois, je le voyais dépasser. et il est remonté en dépassant des mecs. Vraiment, pour moi, l'impression que m'a laissé ce Grand Prix d'Italie, c'est quasiment un copier-coller de la Belgique. Avec un début intéressant, tendu avec des bagarres, puis une fin beaucoup plus stratégique sur la gestion des pneus. Et dans Massa, j'ai revu sa course de la Belgique. Il a couru après le temps perdu. Là, je crois que c'était une crevaison en Belgique. Là, c'était de son tête à queue. Il a couru après et il fait une très belle course. Mais anonyme, il fait une course à la Rosberg.
En plus, ils l'ont très bien dit, même dès le départ, c'est vrai que à Monza, ça a tendance à faire des paquets. C'est-à-dire que si tu décroches... c'est très difficile de voilà. Donc là pour le coup justement avec son problème de Weber, c'est à ce moment-là qu'il décroche et malheureusement il se retrouve plus dans la même course, mais il fait une très bonne course.
Surtout avec le DRS en plus hein. Bon, le DRS c'est très bien parce que ça resserre les écarts, mais dès que t'es à plus de seconde
c'est foutu hein.
Ouais. Bon, moi je l'avais pas beaucoup vu pendant la par le fait qu'il ait fait qu'il soit bien remonté après son tête à queue de Red Bull. Je l'avais pas beaucoup vu sur le restant de la course et c'est pour ça que je lui avais mis que 4 points quoi.
Mais c'est vraiment le genre de course qui est, encore une fois, c'est vrai que quand tu vois la télévision, t'as un choix partiel, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu te fais, sincèrement, à un moment donné, je me suis quand même fait chier dans la course, quoi.
On va dire, a été très pénalisé par la réalisation. Parce que justement, il était derrière.
Mais, il a pas lâché, il a pas perdu le moral. Moi, j'aime bien voir Massa comme ça quand il perd pas de moral, quoi. C'est, je trouve qu'on a besoin d'un Massa comme ça qui lâche rien. Et le jour où il retrouvera la chance, ça pourra sourire pour lui.
On passe à la sixième place.
C'est qui?
Ah.
Oh bah non.
Il a, il y a deux semaines, il avait marqué 85 points. Et on s'était dit, c'est con quand même qu'il soit pas dans le top 10. Cette semaine, il marque 392 points. Il a le chiffre du diable. Oui, parce que je lui ai mis 6 points, Dino lui a mis 6 points, et Kevin lui a mis 6 points. Donc comme on est l'un à côté de l'autre, sur mon écran, ça fait le chiffre du diable. C'est Bruno Senna. Et là, pour le coup, bah bon, à Spa, on sait, il y a eu ce premier virage qui a un peu foiré sa course. Là, il n'y a plus eu le problème du premier virage. Et il a fait une course, voilà, une belle course.
Un super dépassement sur Maldonado, je crois,
oui.
Il me semble. Très beau dépassement. Voilà, c'est un joli coup de volant. Voilà, c'est encore une fois, il montre que c'est bien parfois de faire preuve de temps et de patience avec les pilotes et leur donner une deuxième chance. J'avais fait un drive through, je crois, contre c'était à Silverstone contre Jean-Louis Moncey qui avait très vite condamné Ricciardo. On remarque aujourd'hui qu'il a devancé sur le circuit Monza Liuzzi en qualification, qu'en course, bon malheureusement ça n'a pas pu jouer, mais que lui au moins il n'est pas sorti, il a pas fait une sortie de route. Voilà, donc il faut laisser aussi le temps aux jeunes pilotes d'apprendre que c'est pas facile de faire ses débuts chez HRT. On le verra, j'espère, avec Grosjean. Voilà, c'est bien de voir des pilotes qui prennent leur deuxième chance, qui essaient de la saisir. Je trouve ça vraiment très beau.
Pour le coup, ça devient une composante en plus pour l'an prochain, parce que on se disait, bon, si Kubica revient pas, Grosjean pourrait le remplacer, mais Bruno Senna, quand on voit ce qu'il fait, on se dit quand même qu'il mériterait quand même un baquet pour l'an prochain.
Ben c'est ce que j'avais dit, hein, c'est que si c'est le risque de prendre Senna, c'est que si Senna était bon, tout d'un coup pour Grosjean, ça fait un concurrent et un baquet de moins. Mmh. Donc c'est le problème. Alors il y en a, je sais pas sur TF1, ils ont l'air de dire qu'ils vont ça sera plutôt si Kubica revient pas. Il virerait Kubica, il virerait Petrov pour mettre
Petrov,
Senna.
Contrat,
genre pour faire Senna Grosjean, partir avec de nouveau l'année prochaine. Non, ils vont garder Petrov. Petrov, pour moi, sincèrement, il n'y a pas de raison pour pousser Petrov vers la sortie après deux courses de Senna. Tendons de voir, quoi. Petrov aussi avait fait deux très bonnes courses en début de saison dernière, donc...
Pour le coup,
fait des belles conneries.
Si Kubica ne revient pas, on pourrait pourquoi pas imaginer un Grosjean chez Lotus et un Senna chez Williams.
Chez Williams, Renault, un Senna, t'es sûr, toi?
Oui, bon, d'accord. Moi, je voyais plutôt le côté, ils ont besoin de fric, ils reviennent avec des sponsors. Et on pourrait, ça pourrait être hyper beau. Ah ouais, attends, c'est pour faire le buzz. Ce serait énorme, Bruno Senna.
Surtout que c'est la même livrée, surtout que l'année prochaine, ça arrive d'être la même livrée. Arrête. Déjà que c'est un peu bizarre chez Lotus Grand Prix. Bon, surtout maintenant chez Caterham F1, chez Team Caterham, il n'y a plus de place.
Ah oui, oui.
Ce sera Team Caterham l'année prochaine.
Mais on peut le rappeler, donc, apparemment, ils se seraient mis d'accord. Donc, Team Lotus prendrait le nom de Caterham, ce dont on doutait, hein, quand même. Hein, et surtout avec les gros Caterham sur le côté des voitures. Elle garderait par contre les couleurs vertes et jaunes, mais ouais, de logo de Lotus. Et donc, par contre, du côté de Lotus Renault, parce que Lotus Renault sont noir et or, mais le Lotus Car sponsorise par exemple en IndyCar, et les voitures sont vertes et jaunes.
Ouais.
Et apparemment, ils s'engageraient eux de leur côté à ce que toute leur voiture soit en noir et or, que ce soit un peu...
Ouais, d'accord.
Voilà. Mm-hmm. On passe à la cinquième place.
Oh oui.
Cache ta joie.
Je la cache pas, je dis. Au contraire.
500 points, pile, tout pile. Je lui ai donné 10 points. Kevin lui a donné 10 points. Et je viens de constater aussi, je vois pourquoi t'as ce... Tu n'as pas donné de points.
Non, je suis en colère.
Pourtant, ce qui est étonnant, parce que je me disais, tiens, Dino, qui aime bien, justement, c'est... Bon, en exagérant, je dis que t'aimes bien la défense. Enfin, voilà, mais non.
Mais je vais en profiter.
Pas donner pas à Hamilton.
J'en profite tout de suite pour faire mon drive through.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive through. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, Mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors je reconnais, c'est très injuste envers Hamilton. C'est pas un drive through envers Hamilton, surtout que j'ai fait mon top 10, puis après j'ai lu une déclaration d'Hamilton qui m'a un peu fait regretter de l'avoir exclu de mon top 10, parce que je l'ai exclu, je l'ai disqualifié. Mais j'ai été véritablement excédé par les réactions de McLaren sur justement la bataille avec Michael Schumacher, où Lewis Hamilton lui-même a déclaré qu'il n'avait rien vu de mal. Bon, même si ces déclarations sont plus adressées en disant « Oui, on m'a pas convoqué à la FIA, donc c'est que c'était propre, il y avait rien eu de mal. » Voilà. Il cherche pas non plus à se brouiller avec la FIA, il sait très bien que ça peut lui porter
plus. Oui.
Et son équipe l'a fait à sa place.
Franchement, quand tu vois à l'écran, bon, il défend, c'est tout, voilà, il défend, c'est non, normal.
C'est ça aussi qui m'énerve, c'est que cette année, on a donné des bonus incroyables à l'attaque. On leur a donné le DRS, où les mecs peuvent attaquer un pilote grâce au DRS, alors que l'autre ne l'a pas. Et maintenant, on voudrait quasiment exiger, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a demandé à Schumacher de laisser de la place. On a eu les communications radio de Ross Brawn qui disaient « Laisse de la place, etc. » Le mec, il est pas devant. Qu'est-ce qu'il va lui laisser de la place pour dépasser? Il a pas à passer. Si Hamilton n'a pas son museau devant, eh ben il ne passe pas, un point, c'est tout. Alors maintenant, on va arriver que dès qu'il y a un mec qui va gueuler, parce que juste il est devant et qu'il y en a un qui veut dépasser, juste pour faciliter l'action et faciliter les dépassements, on va dire « Ah voilà, drapeau bleu. Il est pas un tour, c'est pas grave. On lui met un drapeau bleu. » C'est ce qu'on aurait dû faire à Schumacher. Si vraiment la FIA pensait que c'est Schumacher et que McLaren, parce que McLaren derrière, pensait que Schumacher, ce qu'il faisait était bien, qu'on lui mette un drapeau bleu ou un drapeau noir, mais qu'on arrête cette mascarade de laisser croire que les gens peuvent se battre, alors que finalement, on ne veut pas que les gens se battent. Ce qu'on veut voir, c'est des dépassements. On n'a rien à foutre de la qualité ou de quoi que ce soit. Aujourd'hui, on veut voir un mec dépasser un autre. On n'a rien à foutre du spectacle. On n'a rien à foutre qu'un mec se défende. Moi, la défense, j'ai souvent dit, je trouve que c'est ce qu'il y a de peut-être pas de plus beau, mais je trouve que c'est quelque chose de très très beau. Et il se trouve que Schumacher, il a élevé cette partie de la course, il l'a élevé quasiment au rang d'art. Il y a très peu de pilotes qui savent se défendre aussi bien que lui. Ça a été viril, mais correct ce week-end.
Franchement, faut le dire, hein, quand on le voit à l'image, enfin, oui, voilà, il défend. Il défend sa place, il fait pas des zigzags non plus.
Il y a eu deux moments un peu chauds pendant la course. Il y a le moment où Hamilton va sur l'herbe. Là, c'est sincèrement, c'est pas la faute de Schumi, c'est la faute d'Hamilton. Je crois que.
Bah, comme tu Vettel... disais, il est toujours derrière à essayer de dépasser dès qu'il peut.
Vettel dépasse Alonso au même virage à l'extérieur. Button dépasse Alonso au même virage à l'extérieur. Hamilton, il passe à l'intérieur. À un moment donné, c'est, alors je veux bien qu'on dise que Schumacher se rabat, ce qui est pas vrai, ou qu'il ferme la porte, ce qui est pas vrai non plus. Mais à un moment donné aussi, faut qu'Hamilton, il passe à l'intérieur à cet endroit-là. Si généralement, on passe à l'extérieur à cet endroit-là, sauf si le mec te laisse la porte ouverte. Mais c'est pareil, on va pas non plus demander à chaque fois au mec de laisser la porte ouverte. C'est quoi ce sport aujourd'hui? On va demander aux gens de, dès qu'il y a de la bataille, à se laisser de la place pour pouvoir qu'on dépasse. Hamilton, c'est mal battu pour aller la chercher. Voilà.
Et en plus, il s'est mal défendu, en plus.
En plus, il s'est mal défendu.
Parce que c'est un truc qui, ça m'a fait sourire. C'est quand même Hamilton qui met peut-être une bonne dizaine de tours derrière Schumi à essayer de le dépasser. Il le dépasse, et Schumi, il met quoi? 3 virages.
Même pas, ouais. Non, mais en plus, quand tu écoutes McLaren.
Il le redépasse direct.
Quand tu écoutes McLaren qui ose dire que oui, ça nous a coûté le podium, non. Ce qui vous a coûté le podium, c'est que pendant le restart de la safety car, on a deux pilotes qui sont devant, qui sont en train de faire le restart, et un autre derrière qui s'endort. Hamilton s'endort, il est déjà, avant même que le restart ait lieu, il est déjà sous la pression de Schumacher. Schumacher, avec la vitesse de pointe, il est déjà derrière, il a juste à passer. C'est à ce moment-là qu'Hamilton y perd le podium, parce que à ce moment-là, bah, il se retrouve derrière Schumacher, et arrive tout problème. S'il avait fait attention à son restart, qu'il avait soigné son restart, il aurait peut-être même déjà pu dépasser Alonso dès le début de la course. Il aurait peut-être même pu jouer la victoire parce que la McLaren était performante. Donc la faute, elle est pas à Schumacher.
En plus, après, quand il redépasse la deuxième fois, après il y a aussi même Button, quand il a redépassé Schumacher, tout de suite il a pris de l'avance.
Moi vraiment, ce qui m'énerve, alors que même Hamilton dit bah il y a pas grand chose, franchement c'était pas trop grave. Derrière, on a la machine McLaren qui est en route dans les médias pour créer une polémique sur ce qui a pas de raison de polémique. Tout ça pour couvrir son pilote qui n'a pas besoin d'être couvert. Vraiment, c'est pour lui trouver des excuses pour dire qu'il n'a pas fait le podium. Non, il n'a pas fait le podium parce qu'il est passé un peu à travers de sa course. Ça peut arriver de passer un peu à travers.
Le pire, c'est qu'il démérite pas. Hein. C'est non, pas comme voilà. S'il avait non plus fait une course catastrophique.
Il s'est un peu compliqué la tâche. Voilà, c'est tout.
Pour moi, c'est vrai que c'est décevant par rapport à ce qu'on attendait des McLaren, mais ça va. pas péri dans la demeure. Hein.
Le pire, c'est que dans la déclaration d'après-course d'Hamilton, il le dit lui-même qu'il a loupé le restart et que c'est là qu'il a perdu du temps et que Schumacher l'a dépassé. Quoi.
Mais c'est là le pire.
Oui, c'est ça. C'est même pas contre Hamilton.
Non, c'est contre McLaren. C'est contre McLaren. C'est McLaren parce que ils font une polémique où même leur pilote a pas envie de polémiquer et la FIA qui est à l'écoute de McLaren. On dit souvent Radio Ferrari. Là, ça a été un peu Radio McLaren, quoi. C'est McLaren qui s'est plaint. Ils ont raison de se plaindre, à la limite. C'est aussi comme ça que ça joue. C'est un jeu d'influence, la Formule 1. Hamilton l'a fait. C'est son boulot aussi de se plaindre. Il est obligé de le faire. Mais que la FIA aussi rentre dans le jeu en faisant fonctionner la radio pour dire à Ross Brawn, demande à ton pilote de laisser de la place, etc. Voilà. Si maintenant la FIA se met à dicter tout et n'importe quoi pendant la course, bientôt on va ordonner, je sais pas, à un commissaire d'agiter, de sortir la safety car juste parce qu'on trouve que les écarts sont pas suffisants. Alors pour mettre la safety car. Enfin, c'est n'importe quoi. On manipule la course.
Kevin, tu voulais rajouter quelque chose sur la course d'Hamilton?
Sur la course d'Hamilton, en gros, non. Ce serait plus sur la réalisation de TF1 où vous allez leur mettre un live show, en fait.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
En fait, je voulais leur mettre un drapeau parce qu'on a vu la belle bataille de Schumi et d'Hamilton pendant plus de, je sais plus combien, 28 tours, je crois, où Hamilton est derrière Schumacher. Et au moment où Hamilton dépasse Schumacher, c'est là que TF1 décide de mettre la pub, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu con. Surtout que j'en ai profité en fait pour sortir fumer. Donc du coup, j'ai pas pu voir le dépassement. Quand je suis revenu de
la fin, je suis allé aux toilettes.
Non mais TF1 déjà rien qu'avant la course, ils ont fumé. Pourquoi ils ont fait F1 à la une?
Ouais.
Enfin, c'est. Toi, Dino, tu l'as pas vécu parce que tu étais sur place, hein. Mais on peut dire, puis même pour les non-français, puisque on a nos amis belges, suisses qui nous écoutent, donc. Hier, hein, puisqu'on était le 11 septembre, le journal de la mi-journée était plus long. Hein. Il a fini à 13h45. Donc, au lieu d'avoir un F1 à la une, l'émission de pré-course de 20-45 minutes, ils nous ont fait un F1 à la une de 5 minutes, à peine. Hein, sachant que dans les 5-8 minutes, t'avais une bonne moitié, c'était Denis Brognard dans le studio. C'est-à-dire que, alors, je crois, genre, ils ont annoncé un truc pendant le F1 à la une, mais tu vois, genre, la news qu'ils auraient pu annoncer pendant la course, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont mis un F1 à la une de 8 minutes. Bon, moi, je me doute pourquoi, hein, c'est parce que si tu mets une émission au milieu, tu peux mettre deux pages de pub, une avant, une après. Mais si tu veux, dans l'idée, tu dis, mais pourquoi ils ont fait une émission de 5 minutes? Dans ce cas-là, autant lancer directement le direct.
Oui, ou alors même autant rallonger le journal.
Voilà, ou oui, à la limite, autant rallonger le journal.
Tu fais le journal jusqu'à 13h55 et puis c'est bon.
Voilà, donc t'as eu le F1 à la une, t'as eu la page de pub, et pour en plus, ça a été serré parce que quand on est passé à la retransmission même de la course...
C'était déjà le tour de chauffe, en fait.
C'était déjà... Le tour de chauffe était déjà parti.
Oui, ils ont même dû... Ça m'a étonné parce que...
Oui,
j'ai revu la course.
Ils ont passé la grille en toute vitesse, on se dit, tiens, ils sont pas encore partis. Et juste après, on les voit, en fait, le tour de formation était déjà parti.
Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est en même temps, parce que quand ils prennent l'écran avec les classements, on voyait les mecs derrière sur la grille en train de s'agiter, puisqu'on pouvait pas, j'entendais des bruits de moteur. Merde, c'est bizarre, parce que normalement, ils sont sur la grille, il n'y a pas de moteur allumé. Puis en plus, quand j'étais sur place, je savais qu'il n'y avait aucun moteur qui était en train de tourner. Enfin, ils étaient en train de tourner, mais pas en train de rouler, parce qu'il y a quand même une différence de bruit. Mais voilà, c'est bizarre. Puis après, je vois le plan où on a, je crois, c'est Alonso qui est à la sortie, qui est à l'approche d'Ascari. Ouais, ah, bon, bah, d'accord.
Donc voilà, c'était étrange. Tout ça pour voir une dernière fois cette saison Denis Brognard. Allez, on va passer à la quatrième place.
Oh oui.
Oui, il a marqué 692 points.
Mais qui est-ce?
Je lui ai mis 12 points, mais Dino et Kevin ont été généreux qu'ils lui ont même mis 15 points.
Ouais.
C'est Fernando Alonso qui rate le podium chez nous, mais pas en vrai.
Ouais.
Même s'il espérait une deuxième place, voire mieux. Mm. Et donc Alonso qui donc prend le départ avec 4 KERS, 2 DRS et 2 moteurs. Parce que non mais c'est Il a pas la même voiture qu'ils ont au départ.
Son départ, il est juste
hallucinant, quoi.
Quand tu vois, non mais c'est le moment où t'en prends vraiment conscience. C'est-à-dire, nous déjà on en a conscience, etc. En plus, bah, je vous raconte pas le bruit dans les tribunes, etc. C'est bizarre, après on les a plus entendus, les tifosi. Mais quand même le
et
bruit.
On même par la télé, dire le
oui.
qu'il y a.
Oui. Hein. Il y a eu deux réactions des tifosi pendant la course, c'est le départ et l'accrochage entre Weber et Massa. Bon, vous nous avez dit que c'était pas à chaque fois les mêmes réactions. Je peux vous dire que Weber, il est pas venu sur le muret. Parce que il est pas très loin de la tribune en face de Ferrari, donc il a pas voulu risquer les choses. Mais ce départ, il est énorme. Et t'en prends conscience quand t'as le premier. Encore une fois, c'est ce qui est choquant, quoi. Quand t'as le premier mot, la première discussion qu'ont les trois pilotes du podium entre eux, c'est de le regarder et de dire comment t'as fait. Les mecs, ils ont fait 53 tours, mais le truc qu'ils ont retenu, ils se sont dit à la fin de la course, faut que je demande à Alonso comment il a pris son départ. C'est dingue, quoi.
Ah non, puis même en vue intérieure, tu vois, parfait, quoi. Le départ parfait. C'est
incroyable. Ouais, et puis il y a Vettel qui prend pas forcément un très bon départ, il y a Hamilton qui prend un bon départ, ce que j'appellerais moi un bon départ, puis t'as Alonso qui prend c'est même plus un départ. T'as l'impression que le mec
il est parti deux secondes avant, mais personne l'a vu.
T'as l'impression que le mec, voilà, il était encore dans le tour lancé, il est arrivé, excusez-moi les gars, je suis à la bourre. Ah bah vous êtes partis, il y va. C'est
là, ça faisait plaisir quand même de le voir en tête de la course, même si ça n'a pas duré très longtemps finalement.
Non, puis en plus, bah, sur la course, moi je l'ai mis troisième. Sincèrement, je dois dire que c'est le cœur qui a parlé. Je l'ai mis devant Button. Je spoil un peu, en partie parce que Button, il a fait une très belle course. Mais il n'y a pas, nécessairement, de mon point de vue, il n'y a pas un truc qui est sorti du lot. Il a fait des beaux dépassements, mais il n'y a pas un truc qui est sorti du lot. Vraiment, le départ d'Alonso, il est sorti du lot, quoi. Ça fait partie des trucs dont on se rappellera, le départ d'Alonso. Généralement, les départs, on s'en rappelle. Mais là, celui-là d'Alonso, vraiment, c'est un très, très joli départ, très beau. On sait en plus que, malheureusement, à Monza, l'herbe n'a pas toujours été bon signe. Hein, certains pilotes se sont tués en passant sur l'herbe. Donc voilà, c'est très couillu quand on voit derrière ce qui arrive à Liuzzi qui lui aussi passe sur l'herbe. Tu dis voilà, différence de voiture, différence de pilote.
Ah, il y en a une qui est un petit peu mieux équilibrée que l'autre et un qui a un petit peu plus de talent que l'autre.
mais en plus, enfin c'est super, c'est pour l'ambiance, quoi. C'est j'avoue que j'étais un peu déçu aussi de l'ambiance de Monza, parce que peut-être aussi parce qu'on la fantasme beaucoup et que dans la réalité d'un week-end, cette ambiance elle ne s'exprime que dans certaines occasions, notamment quand la Scuderia fait quelque chose de magnifique, ce qui était le cas là avec Alonso, un magnifique départ. Mais c'est vrai que par exemple, pendant les qualifs, l'ambiance elle est pas non plus superbe. C'est vraiment sur la course et quand Ferrari est là qu'il y a une chaude ambiance et qu'on sent vraiment vivre Monza. Mais du coup j'étais quand même content de ce départ parce que ça m'a donné une partie de l'ambiance de Monza. Et moi aussi, je me suis lâché, quoi. Ouais, c'était là. Ouais. Puis je me suis tourné vers les Italiens derrière qui comprenaient pas ce que je disais parce que ils disaient si. Et voilà, ce moment de communion, enfin, c'est incroyable, quoi. Ce moment de communion avec des milliers de gens. C'est la beauté du sport. Voilà, le sport, c'est avant tout ça. Ça transcende les différences. Et Monza, on
c'est Arnold et Willy, la F1.
Oui.
Là aussi, il faut être un peu vieux pour connaître la référence.
Apparemment, Kevin, il a compris.
C'est bon, Kevin a compris.
Oh, c'est méchant, s'il va me dire.
Mais non, mais il est plus jeune, c'est un vieux truc quand même. Hein.
Qu'est-ce que t'as contre les Kevin?
J'ai rien contre
lui. Sérieusement, Shinji, il faut qu'on le dise au monde. Ça fait 3 ans qu'on t'appelle Shinji. Mais peux-tu nous dire quel est ton vrai prénom? Vas-y, avoue-le, Kevin.
Ce n'est pas Kevin.
Ah, oh, arrête, Kevin. On t'appelle même Kevina dans les soirées, Armand. Hein?
Quelque chose à rajouter sur Alonso?
Non, moi non.
Bon, tu me demandes si je vais rajouter des trucs sur Alonso, mais fuis-toi ici.
Attention, on va passer au podium.
Ouais.
Cache ta joie.
Bah, y a pas eu le Ferrari dessus, ça m'énerve.
Et en troisième, il a marqué 860 points. Dino, tu lui as mis 12 points seulement.
Seulement, ouais.
Mais écoute...
Attends, les 12 points, j'aurais pu les donner à Maldonado, c'est bon.
C'est vrai. Alors que moi et Kevin, eh bien, on l'a mis premier.
Oui. What the fuck?
Mais merde, il a doublé, quoi. Il s'est pas arrêté de dire, ouais, vous avez vu, il y a les 5 champions du monde à la suite. Oui, bah lui, on a quand même doublé 3.
Ouais.
c'est Jenson Button. Mais merde, super course, il se farcit Hamilton, il se farcit Schumi, il se farcit Alonso.
Puis c'est en grande difficulté en plus. Il n'a pas mis pour doubler Hamilton et Schumacher, bon, c'est sûr qu'il a un peu profité d'une erreur d'Hamilton pour le doubler. Mais quand on voit le temps que Hamilton a mis à doubler Schumacher et le temps qu'a mis Button à doubler Schumacher, il n'y a
pas. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai mis derrière Alonso. C'est parce que, comme tu le dis, il les a dépassés sans grande difficulté. Il est quand même remonté comme une flèche sur Alonso. Il l'a dépassé sans grande difficulté. Et honnêtement, le dépassement à la fois sur Hamilton et Schumacher est très opportuniste. Il faut le faire. On est bien d'accord. Il faut le faire. Mais généralement, quand ils sont trois à se battre, le troisième, généralement, c'est celui qui tire les marrons du feu. Et c'est ce qui est arrivé. Après, sur le dépassement d'Alonso, clairement, la McLaren, elle est meilleure que la Ferrari à Monza, quoi. C'est tout. Et il est remonté très vite. Et quand on voit comment est remonté Hamilton sur la fin de la course, voilà, j'ai pas envie non plus de déprécier sa course parce que encore une fois, il fait une très belle course. Encore une fois, il fait une course intelligente et patiente. De là à le battre premier, il y a quand même des trucs qui m'ont plus impressionné que Button ce week-end.
Moi, j'ai hésité. Puis pas dans ce cas-là, deuxième place.
Oh, comment vous défendez pas bien votre première place, dis donc, les mecs.
Mais non,
vous mettez du cœur à l'ouvrage, faut être passionné, là. Là, on dirait, bon, on l'a mis premier, comme ça.
Mais non, on te l'a dit, c'est pour ces dépassements,
Mais mettez-y du cœur, merde. C'est pareil. Ouais, les dépassements qu'il a fait, ils étaient super génial. Vous voyez, même vous êtes pas très enivré par sa course, parce que vous le défendez pas avec le cœur.
Moi, je t'avouerais, j'ai beaucoup hésité pour la première place. J'ai beaucoup, beaucoup hésité.
Oui, mais enfin, t'as mal choisi, alors.
Peut-être. Allez, on va passer à la deuxième place. Il a marqué 913 points. On l'a tous les trois mis deuxième.
Ah, ça me rassure.
Il est allemand. Il est champion du monde.
Et pas qu'une fois.
Et pas qu'une fois. Oui, parce qu'on peut le dire, hein, son deuxième petit, c'est bon. Hein. C'est Sébastien Vettel.
Très fort.
Ouais.
Très fort. Moi, sérieusement, il m'a
Déjà, ce qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à se rattraper quand même sur son départ.
Ouais, il prend un mauvais départ. Mais ce qui est hallucinant, c'est que je l'ai vu s'envoler. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il a dépassé Alonso. Le tour d'après, il avait 50 mètres d'avance. Le tour d'après, il en avait 75. Le tour d'après, il en avait 120. Le tour d'après, il avait... Et comme ça, à un moment donné, j'ai plus vu la Ferrari. Je me suis dit, voilà, c'est mort. Je me suis tourné vers un mec à côté de moi. Je lui ai dit... Vettel, on le revoit. Mais hallucinant, quoi. C'est, déjà à la télé, c'est impressionnant le trou qu'il peut faire. Mais visuellement, quand on est sur le bord de la piste et qu'on voit les écarts en termes de distance, on voit les voitures passer, c'est impressionnant. C'est impressionnant la claque qu'il leur a mis, quoi, sur un circuit.
C'est incroyable parce qu'on l'attendait pas. Enfin, ils attendaient pas. Oh non, ouais, on se disait, bon, Monza, circuit de vitesse, ça peut être un bon coup pour McLaren, ça peut être un bon truc pour Ferrari parce qu'on est en Italie. Et là, fou, la claque, quoi.
Bah déjà, la demi-seconde qu'il met en qualification, elle fait mal.
Ouais.
Après deux grands prix où on attendait pas Red Bull, deux victoires de pôle de Red Bull, ça fait mal.
Elle a une homogénéité incroyable, quoi, être capable d'être aussi performante que ça partout pour l'instant. Elle a été dans quasiment toutes les configurations. Enfin, voilà, on sait, hein, la pire place de Vettel, c'est quatrième, quoi.
Puis là, apparemment, il y a un choix de, comment s'appelle, de Sébastien Vettel.
Oui, sur les...
Justement, ses rapports de boîte, un peu contre l'avis de son équipe, etc. Voilà, c'est quand on lit, par exemple, des questions de je sais plus...
Il avait une voiture, bon, la VMAX ne fait pas tout, mais c'est vrai qu'il avait une voiture qui, potentiellement, était quand même un peu lente, mais voilà... Il fait quand même, je crois, le troisième meilleur temps, hein, sur la course, quand même.
Mais c'est parce qu'en fait, c'est
derrière les McLaren, d'ailleurs.
C'est un paramètre qu'on, moi, personnellement, je prenais pas forcément en compte avant, mais c'est vrai que c'est pas con. Comme on est dans les lignes droites, c'est pas forcément dans les lignes droites que la différence se fait. Là où la différence se fait, c'est justement dans la rapidité que tu négocies, les deux chicanes et, les SMO
les
et Ascari.
Enfin,
voilà. Mais vraiment, quand on lit que, je sais plus qui a dit que, en Formule 1, il y avait que deux leaders, Alonso et Schumacher, sincèrement, quand on voit ce que fait Vettel et apparemment en interne, il impose ses choix techniques, etc. Il mène l'équipe en collégialité. Hein. Schumacher, il n'a pas porté Ferrari tout seul. Schumacher, il a porté Ferrari avec Ross Brawn, avec Rory Byrne, avec Jean Todt. Quand on voit ce que fait Vettel, bah oui, il y a de ça, quoi. Il y a du leader, il y a un grand champion qui maîtrise une équipe, qui c'est beau, quoi, tout simplement, voilà.
Kevin, tu veux dire quelque chose sur Vettel?
Bah, d'après ce que je pourrais dire à ce que de ce point-là, j'ai du mal. Pourrais dire à ce que Dino vient de dire, c'est vrai que Vettel, on le sent beaucoup plus, enfin, pour moi, on le sent beaucoup plus impliqué dans l'équipe que Weber, on le voit plus, c'est vrai qu'il porte plus l'équipe que Weber, c'est vrai qu'on le sent leader de l'équipe, quoi.
Bah surtout ce que on a souvent dit de Vettel qu'il était leader un petit peu par définition de l'équipe parce que c'est le pilote Red Bull etc. Mais là ce qui est intéressant c'est qu'on voit que il se contente pas juste d'être le leader parce que c'est le chouchou de Red Bull, il est aussi le leader techniquement parce qu'il impose ses choix, parce que dans l'équipe il s'oppose à eux, comme par exemple a pu s'opposer à Alonso chez Ferrari.
Non puis il faut arrêter avec ça, enfin il va avoir son deuxième titre de champion du monde. Enfin voilà, il peut regarder dans les yeux Alonso, quoi. Il n'y a pas de souci maintenant. Oui. Waouh.
Je crois déjà qu'il le regarde bien.
Ouais.
Je crois que d'ailleurs il a bien regardé quand il l'a dépassé. Bon là, je vais dans l'herbe. Je te préviens. Je veux bien aller dans l'herbe, mais derrière je passe. Pourquoi? Parce que je suis plus rapide, hein. Et que moi, monsieur, je me suis déjà imposé ici. Alors tu fermes ta gueule, poète. Tu l'as laissé passer.
Allez, on va passer au vainqueur.
J'ai peur. Que...
Il a marqué 961 points. Il y a deux semaines, il fêtait ses 20 ans de carrière. On a beaucoup parlé pour son retour.
Johnny Hallyday encore...
Ah non, non, parce que lui, il n'a pas les cheveux. Ah. J'espère pas, en tout cas.
Peut-être.
Mais ils mettent tous les deux des jeans, des pantalons en cuir.
Oh non, Shinji, ressors pas les vieilles casseroles de Shinji. Non, 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 que moi je les sorte, d'accord, je suis un fan de Schumacher, un vieux fan de Schumacher. Mais toi, t'as jamais été fan de Schumi, tu peux pas sortir des casseroles, t'as pas le droit.
Il n'a pas encore gagné en F1, mais il pourra avoir la fierté de dire qu'il a gagné au SAV Schumacher.
Il n'a pas encore gagné en F1, tu te fous de ma gueule.
Non, mais qu'il est revenu.
Ah, bah précise-le, Shinji, tu m'as fait peur. J'ai cru que tout ça n'était qu'un rêve.
Je lui ai mis 15 points. Kevin lui a mis 12 points. Et Dino, j'ai l'impression de me dire, comme à la grande époque, mais on le faisait pas encore à l'époque, tu lui as mis 25 points. Ouais. Franchement, j'ai eu la rage de ne pas le voir sur le podium. Il aurait franchement mérité d'être...
Sincèrement, quand je l'ai vu troisième, j'ai pris conscience, j'ai regardé le classement, je fais, attends, mon petit Dino, t'es à Monza, c'est ton premier Grand Prix. T'es dans la patrie de Ferrari. Et tu as Vettel, Schumacher. Et là, c'est potentiellement le plus beau jour de ta vie. Et franchement, à un moment donné, je me suis un peu sorti de la course. J'ai regardé un peu le sol par terre. Et pour me calmer un peu, parce que voilà, c'est l'ordre de la passion. Voilà, je me suis jamais senti vraiment comme ça devant une course. Ça m'a rappelé, je sais pas, des sensations de titre de Michael Schumacher. Donc, c'est dire vraiment que ça. C'était très fort, vraiment c'est une émotion surprenante parce que je ne m'attendais pas à être autant ému, mais voilà. Par contre j'ai pas non plus été très déçu parce qu'il soit pas sur le podium parce que c'était bien défendu et tout, mais
Oui, non, il a fait une très belle course, mais c'est vrai que franchement j'aurais le voir sur le podium, ça aurait vraiment été génial, quoi.
Ah ouais, sur la grille quand les voitures arrivent, il y a Massa qui est applaudi. Il y a Alonso, alors c'est même plus des applaudissements Alonso. Ça simplement, quand on dit que ça c'est le chouchou Ferrari, peut-être dans l'écurie, mais clairement dans le public, c'est Alonso. Et derrière, il y a Schumacher qui arrive, vous avez un long silence, Schumacher arrive en dernier sur la grille, il arrive comme un malade, un taré, mais je vous jure, un malade. Il a failli même renverser un de ses mécanos, il arrive et là tout le monde applaudit et tout le monde crie son nom. Voilà, il y a trois pilotes Ferrari pour eux. C'est génial, quoi, encore une fois, de se dire, bah voilà, ça transcende les différences. Il est parti chez Mercedes, il y a des gens peut-être qui sont cours et qui disent que c'est un traître, et il y a des gens qui eux se rappellent que quand même la Scuderia, bah, une grande partie de leur histoire est due à Michael Schumacher, enfin a été écrite avec Michael Schumacher et qu'il ne l'oublie pas, et ça franchement c'est très beau dans le sport.
Bah, c'est courant, enfin pas en foot, parfois t'as les deux, quoi, t'as la même chose parfois quand t'as des joueurs qui changent d'équipe
là on a eu
qui reviennent
on a eu comment s'appelle Lugano là qui était au Besiktas et qui est parti au PSG, qui a été acclamé par les fans en partant, etc., qui a été conduit par une foule monstrueuse à l'aéroport alors qu'il venait de quitter le club.
Non, ça va être très belle course. Il a bien exploité les réglages de sa voiture, parce que Paul Wicks aussi, s'il réussit à tenir aussi longtemps dans Hamilton, et voilà. D'ailleurs, enfin, les commentateurs ont bien fait de monter parce que c'était visible en voyant les ailerons arrière. Mm. C'est aussi pour ça que Hamilton arrivait pas à le doubler, c'est que la VMAX était moins importante, plus le DRS, bah, ça suffisait pas forcément. Et donc, dans les lignes droites, bah, la Mercedes, elle tenait très bien.
C'est vrai que dans les lignes droites, Schumacher, on pouvait la réalisation nous montrait les deux vitesses d'Hamilton et de Schumacher, et Hamilton en utilisant le DRS était encore moins rapide que Schumacher.
Ah ouais.
C'est
Et pas bon
vraiment
dans les
une
virages, voilà, il revenait bien. Quelque chose à rajouter sur la course de Schumi?
Moi non.
Peut-être juste que, enfin, on voit quand même que Schumi marche comme plutôt bien quand il y a de la pluie, c'est pas étonnant. Et sur les courses, vraiment les pistes qu'il connaît bien,
Historique.
historiques.
Ouais.
Donc on se dit peut-être que dans 2 semaines à Suzuka, ça pourrait être pas mal aussi. Par contre après.
Mais je pense qu'il y a un facteur plaisir aussi pour lui maintenant.
Ouais.
Je pense
Mais
vraiment que.
est-ce qu'il y a pas aussi un truc, est-ce qu'il y aurait pas eu un déclic il y a 2 semaines? Alors
Peut-être.
ça paraît con à dire, hein, pour un gars qui a 20 ans d'expérience dans les fins, mais
Bah, il a
c'est
quand même
quand
fait.
même, il fait 2 courses quand même vachement bonnes, quoi.
Je pense que s'il y a vraiment une course référence, ce serait peut-être plutôt le Canada.
Canada, ouais.
Voilà. Mais encore une fois, c'est parce que c'est des circuits historiques, des circuits qu'il aime bien, des atmosphères qu'il aime bien. Voilà, je pense que.
D'ailleurs, j'ai dit une connerie, parce que dans 2 semaines, c'est pas le Japon, c'est Singapour.
Ouais. Il sera bon quand même.
Ah,
Ouais.
si peu.
C'est
On
pas
sait
grave.
jamais.
Ouais, voilà.
On verra rien, mais. Allez, on va passer au classement. Hein. Au classement du SAV, bah, c'est toujours vous savez qui hein, qui est premier. 240 points. Ce qui est quand même moins que. Voilà. Hein.
En rééquilibre.
Deuxième, alors c'est bien serré quand même derrière, parce que Alonso, 177 points.
Oh la vache.
Button,
En rééquilibre, il y a
174.
même 3 courses d'avance.
Oui. Non, c'est équilibré entre les deuxièmes, troisième,
Non, mais
quatrième.
c'est moi qui dis on rééquilibre par
Ah
rapport à Vettel. Enfin, on le
oui.
rééquilibre, mais on lui empêche d'avoir 100 points d'avance, il en a 75.
Voilà.
On rééquilibre vachement.
Button 174, Hamilton 173, et Weber qui est un peu décroché à 150, Pierre Massa, il a, non même pas, Schumi est passé, devant Massa, parce que Schumi a 84 et Massa 80. Chez les constructeurs, Red 390. Là, c'est pareil, hein. Il y a 60 points au moins quand même, hein, par rapport au classement. Bon, par contre, McLaren 347. Donc, qui sait, au classement du SAV, McLaren a peut-être vraiment une chance. Qui sait?
Non, je ne laisserai pas faire ça.
Ferrari 257 et Mercedes 142. Dans l'autre classement, et alors ça m'a agacé, c'est les titres d'articles, Vettel se rapproche du titre. Ouais les gars, vous savez que ça fait 6 mois quand même qu'on se doute que Vettel risque de gagner le championnat.
Oui, mais il y a 6 mois, il était moins proche.
Voilà.
Hein, tu vois, il voit un peu plus proche.
Ah oh, bah oui là. Vettel 284 points, Alonso 172, Button 167, égalité avec Weber et Hamilton 158. Mathématiquement, il n'y a que ces 5 là. Maintenant, théoriquement, alors il peut être titré à Singapour, il faudrait qu'il marque 12 points de plus au moins. Par rapport à Londres,
Pas à
au moins.
Singapour. Il resterait 4 courses après.
5 courses, s'il a 125 points d'avance,
Ah ouais.
il en a 112. Hein.
Putain, il peut être titré à Singapour. Oh la vache. C'est-à-dire que si on a.
Je vous avais dit il y a 2 semaines, oui, ça va être déjà pour ça, mais je pensais pas qu'il ferait un aussi bon Grand Prix d'Italie.
Si on a un podium, Vettel, Hamilton, Weber, Button, Alonso, il est champion, non?
Non, Alonso, faut pas qu'il soit mieux que quatrième.
Bah oui, donc il serait cinquième.
Ah oui, si Alonso est cinquième. Oui.
Il est tout le temps cinquième, Alonso.
S'il est quatrième, il fait,
Après, tu me diras, à Singapour, s'il fait le genre de départ qu'il a fait là, il sera peut-être pas
Attention,
cinquième.
Alonso n'a fait que des podiums à Singapour, hein.
Ouais.
Même en notant la première course. Non, mais il sort quand même
Non, Shinji, arrête de mettre le propre comme ça. Il alors que par le passé, j'ai déjà pu moi-même le faire.
Non, mais malgré, voilà, il n'a fait que des podiums. Hein, peut-être qu'il lui manquera un ou deux points après Singapour. On dira, il a fait encore plus grand pas, mais presque, mais pas complètement. Mais ça serait fun parce que 5 courses entre guillemets en roue libre.
Oh, c'est dangereux.
Non, parce qu'après le championnat pilote, à part être premier, les autres pilotes foutent. Hein,
Bah maintenant, non, 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 il y a Alonso qui va être deuxième.
Oui, bon.
Bah ouais, c'est quand même, enfin,
Oui,
sincèrement.
bah oui, il veut être meilleur des autres, oui,
Voilà,
voilà.
être le meilleur des autres cette saison, c'est quand même quasiment être champion pour eux, quoi. Parce que c'est quand même, quand on y réfléchit, tu retires Vettel, c'est très serré derrière, c'est super
Oui,
serré.
il y a 5 points entre Alonso et
Le
Weber.
problème, c'est qu'il y a Vettel.
Chez les constructeurs, alors Red Bull a 451 points, McLaren 325. Donc là, par contre, ce ne sera pas Singapour. peut-être en, je sais, au Japon.
Oh, peut-être en Malaisie, tu vois. L'année prochaine, on leur donne dès l'Australie le titre. Comme ça, ça, ça relâche tout le monde.
Tu vois. Voilà, peut-être la Pepsi, peut-être Corée, ça devrait être par là. McLaren 325, Ferrari 254. Et Mercedes 108 points, mais voilà, je voulais le dire, même s'ils peuvent plus être titrés. Et là, c'est vrai que même après le titre, alors il y a plus d'entrée dans le championnat constructeur entre guillemets que dans le championnat pilote.
Bah, c'est-à-dire que comme chez Red Bull, ils ont entre guillemets qu'un pilote ennemi.
Non, mais même pour les autres places, puisque toutes les places entre guillemets comptent pour des questions de gros sous. Voilà, c'est tout ça. Hein. Et notamment le mini championnat qui est pour la sixième place. Porcidia a 30 points, Sauber 35 et Toro Rosso 29. Voilà, deux places de plus ou de moins, c'est quelques millions en plus ou en moins. On va passer au fait marquant de la course. Quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2011? Est arrivé troisième avec 8 votes, 18,18% des voix. Le dépassement de Weber sur Alonso. C'était qui? C'était toi?
Non.
Non. 16 votes. Hamilton qui devrait regarder son rétro gauche 36,36. Plus drôle, après, avant la virgule, c'est les mêmes chiffres. Et est arrivé premier, 20 votes. La remontée de Schumi, c'est 20 ans.
Ah, c'est ça, ça, c'est moi par contre.
Comme ça, vous êtes très Schumi en ce moment. Hein.
Ah oui. 45,40.
Vous étiez 44 à voter, on vous remercie, de même qu'on remercie ceux qui ont voté pour le top 10. Et donc, bah, le premier choix, c'est pour Kevin.
Alors, allez, moi, Kevin. La résistance de Schumi par rapport à Hamilton.
Il est malin.
Ah ouais, il sait que ça marche en ce moment. Hein. Moi, je vais dire, bah, le strike de Ludi au départ. Moi, je parie sur le goût du sang, tu vois, des...
Bon, du coup, maintenant, j'ai le doute, parce que... Ça, je pensais que t'allais dire Alonso, le départ d'Alonso, mais... J'hésite, parce que sinon, j'avais prévu de parler de la surprise Vettel. c'est une surprise.
Oh oui, carrément.
Tu sais que là-bas sur place, les Italiens, ils étaient effondrés, quoi. J'en ai un qui est venu me voir et me dit, ma Vettel, toujours Vettel, encore Vettel. Mais je fais oui, mais je fais t'inquiète pas, hein, dans 3-4 ans, il sera chez nous.
Il a encore dit qu'il envisageait un jour de...
Oui, puis clairement, il prépare le public. Hein. Parce que le coup du 150 sur le casque, etc. voilà.
D'ailleurs, il faudra qu'il le monte dans le bon sens. Hein.
Oui, oui, ça va le faire. Ça. Mais
alors, dis-nous, choix.
Allez, je vais laisser parler mon cœur. Le départ tonitruant d'Alonso.
Donc, on vous rappelle, donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Italie? Vous aurez le choix entre la résistance de Schumi face à Hamilton, le strike de Ludi au départ, ou bien le départ tonitruant d'Alonso, car oui, le Grand Prix d'Italie, finalement, ça n'a été qu'un départ, quasiment.
Oui, c'est vrai.
Allez, sur ce, on va passer au concours.
Oh non.
Ah bah oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper, ni question à la con, quoique.
Bon alors, le concours, est-ce que vous avez tous à peu près 2 heures devant vous? Parce que quand on leur demande de faire des réponses originales, ils sont pas forcément très originaux. Hein. On se rappelle l'itinéraire Milton Keynes et compagnie. Oui. Les réponses étaient... On aurait pu trouver quand même plus fun comme réponse. Bon, là, on leur demandait rien de spécifique et ils ont décidé de faire dans le fun.
Ouais.
Donc, je vous rappelle la question qui était la question de Maël, une très bonne question, très rigolote, qui était la suivante. En prenant la vitesse d'un escargot de jardin, combien de temps lui faudrait-il pour faire un tour du circuit de Monza? Est-ce que par hasard vous avez la réponse?
Tu crois que je passe mes journées à calculer la vitesse?
Ne dis pas ça, je te dis, tu vas te fâcher avec du monde.
C'est moi qui leur ai posé la question, tu sais. Alors.
Parce que apparemment il y a des gens qui ne font pas confiance à Wikipédia et qui d'ailleurs m'inquiètent un peu.
Alors, donc, je regarde hein, très rapidement. Alors, il y a un exemple avec l'escargot turc. Enfin, je sais pas si c'est un speed. Hein, je sais pas. Il est turc. Je sais pas. Est-ce que le narguilé fait qu'il va plus ou moins vite? Je sais pas. Ou le loukoum. Est-ce que, en fait, le fait de manger des loukoums va plus ou moins vite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va 1 mm par seconde, soit 6 cm par minute. Je lis ça de but en blanc
sur Wikipédia. Alors, sur Wikipédia, hein, Maëlle avait dit qu'elle avait trouvé sur Wikipédia pour l'escargot de jardin une vitesse d'environ 0,00468 km/h.
Wow.
Et étant donné que la longueur du tour de circuit de Monza est de 5793 mètres, il lui faudrait 1237 heures environ, soit 52 jours, rien que pour faire un tour du circuit. Alors, nous avons eu 4 réponses que je m'empresse de vous faire découvrir. Bah quand je dis je m'empresse
parce qu'ils ont écrit une des pages entières.
J'ai une page et demie de réponse, Shinji. Voilà. Donc c'est l'instant lecture. Mais quelque chose me dit qu'on va bien se marrer. Alors attention. Première réponse. Abordons d'abord la réponse à la question de Maël. La première question qui se pose, bien sûr, est de savoir si l'escargot est motorisé ou non. En effet, on l'aura remarqué, le logo du TGV pris à l'envers représente un escargot. Si de plus, le TGV passe dans mon jardin, cette hypothèse est nécessaire pour répondre à la question. Alors, il s'agit bien d'un escargot de jardin. Si on considère alors qu'il roule à la vitesse de croisière de 320 km/h, l'escargot de jardin mettra donc 1 minute 5 et 171 millièmes, en négligeant les freinages, bien entendu. Mais bien entendu, tout le monde n'a pas le TGV dans son jardin. Nous nous cantonnerons donc à considérer un train de banlieue, ce qui est bien plus logique. Et pour cela, je me concentrerai sur l'automotrice Z6400, qui circule sur la ligne L du Transilien, à partir de la gare Saint-Lazare. Détail important, puisque depuis cette gare, la vitesse maximale du train est de 120 km/h, c'est véridique. On me dira, mais pourquoi ne prendre en compte que la vitesse maximale? Eh bien, c'est très simple, mes chers amis, le train ne s'arrête pas dans un jardin. Vous suivez, hein?
Ouais.
À 120 km/h donc, l'automotrice Z6400 mettra 2 minutes 53 secondes et 790 millièmes, un score assez peu performant du reste, mais encore plus logique si l'on comprend escargot par escargot. Même quand je le relis, je suis navré. On peut se référer au S-Bahn allemand, en réalité Schnellbahn. Pour cela, intéressons-nous au Schnellbahn de Berlin, qui utilise les automotrices DR Borail 270 dont la vitesse maximale n'est que de 90 km/h, ce qui n'est pas mal pour un escargot. On prend toujours la vitesse maximale, jardin oblige, et le S-Bahn fait un temps piteux de 3 minutes 51 secondes et 720 millièmes. Et pour ça, j'ai regardé des pages Wikipédia qui n'existent qu'en allemand. On peut l'applaudir. Mais soyons tordus. Et si escargot se référait en fait à un animal? Eh bien, intéressons-nous à l'escargot turc qui, ayant perdu son grand prix, n'aura rien trouvé de mieux que de venir à Monza. En supposant qu'il n'est pas mort pendant le trajet et qu'il vient d'un jardin, sa vitesse moyenne est de 1 mm par seconde. Voilà, et je dis vitesse moyenne car c'est important. Dans le raidillon, ce con d'escargot n'avancerait tout simplement pas.
Mais on n'est pas en Belgique en même temps.
Mais alors, Jamy, il va mettre combien de temps cet escargot? Ah la con, je veux savoir, merde. Eh bien, Fred, ne prends pas d'accord pour te pendre. Parce que les cargos met 67 jours, 1 heure et 10 minutes exactement. Et tout ça pour faire 5,5 km alors qu'il vient d'Istanbul, ce con. Ça sert que mes calculs soient bons. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse.
Et rappelons que la drogue, c'est mal.
Donc, je passe à la deuxième. Et ça commence par un compliment. Chapeau à la gagnante. Trouver la vitesse d'un escargot, facile. Trouver la vitesse d'un escargot de jardin, bonne chance. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé la vitesse d'autres espèces d'escargots et ça tournait aux alentours de 7 ou 8 cm par minute. Donc je vais prendre 8 cm par minute. Soit un escargot de jardin se déplaçant à la vitesse de 8 cm par minute. Soit 0,048 km par heure sur le circuit de Monza d'une distance de 5793 mètres. Sachant que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Et en supposant que l'escargot ne soit pas gêné par une HRT ou écrasé par un Hamilton énervé, on obtient 0,0048 divisé par 5793. Soit 1206 heures 52 minutes et 50 secondes, ce qui est, je trouve, un temps tout à fait respectable.
Oui.
Troisième réponse. Ayant trouvé la vitesse de 4,68 mètres par heure pour un escargot de jardin, mes calculs me donnent un temps de 51 jours, 13 heures et 49 minutes pour qu'il fasse un tour de circuit de Monza. Kartikeyan n'est donc pas le plus lent à avoir couru à Monza. Et enfin, je crois qu'on a le plus fou, c'est le dernier.
Oh mon dieu.
J'ai pris deux escargots dans mon jardin. Je les ai emmenés à Monza. Je les ai placés sur la grille de départ et j'ai chronométré. Manque de bol, un des deux est grimpé sur une voiture blanche avec des pneus Pirelli et portant le numéro 23. Il a parcouru 500 mètres à une vitesse folle, mais il a été écrasé contre sa voiture et une LRGP. J'ai regardé où en était l'autre escargot, mais il était monté sur une voiture rouge, chaussée de Pirelli, et portant le numéro 5. C'est vraiment des enfoirés, ces bestioles-là. Et il a mis une minute, d'ailleurs, je crois qu'il va être disqualifié, ce mec-là. Et il a mis une minute 26 secondes, à peu près, pour faire un tour de circuit de Monza. Soupçonnant que la vitesse de ces mollusques était, à mon avis, un peu moins élevée que ça, j'ai décidé d'attendre la fin de la course, de reprendre mon animal, de le chronométrer en une seconde. Les mecs sont barrés. Il a parcouru 0,013 mètres. Sachant qu'ayant mesuré la distance du circuit durant la course, j'ai trouvé 5793 mètres. Il m'a suffi de faire le quotient de la distance sur la vitesse au mètre. Putain, la vache, ils me font dire des trucs. Et j'ai trouvé approximativement 1237 heures, 49 minutes et 15 secondes. Donc, dans les raisonnements, Shinji, ça te semble bien? Est-ce qu'il y a des réponses que tu souhaiterais invalider?
Pour moi, elles sont toutes valides.
Ok. Donc, je te propose des questions, Shinji?
Ouais.
Alors, première question. En 2010, combien a empoché la FIA grâce aux amendes distribuées aux équipes et pilotes lors du week-end de Singapour? Pourquoi les coups de Sumatra, à ne pas confondre avec le Kamasutra, ne devraient-ils pas être frappés durant le Grand Prix de Singapour? Le circuit de Marina Bay est caractérisé dans sa vue aérienne par un croisement qui réunit les virages 8 et 14. Mais quelle rue se croise à cet endroit? Et enfin, la dernière question, soit A, le nombre total de tours en tête d'Alonso lors des différentes éditions du Grand Prix de Singapour, et soit B, le nombre total de tours en tête à Singapour des autres pilotes ayant mené sur ce circuit. De combien A est-il supérieur à B? Du coup, maintenant, il serait vraiment à croiser les questions et à trouver des trucs. Donc, est-ce que tu as déjà des petites affections?
J'ai des affections pour les deux dernières. Enfin, l'exercice de maths.
Ouais.
Et puis, alors, les coups de Sumatra. Ça m'intrigue, ça, tu vois, le coup de Sumatra, là. J'ai bien envie de... Ça m'intrigue. Donc, je vais prendre celle-là.
Pourquoi les coups de Sumatra?
Ouais, je dis, c'est quoi ce truc? Pourquoi ils en parlent?
Eh ben, tu vas faire un heureux, Shinji.
Oui.
Et je sais que tu as ce pouvoir de rendre les gens heureux.
Mais bien sûr.
Tu es un peu le Père Noël du SAV.
Je suis un peu aussi le DSK du SAV. Je rends les gens heureux.
Vantard.
Alors c'est drôle, hein. Lui il sort DSK, tout le monde se marre. Voilà.
Oui, mais on se marre parce que c'est par force d'accumulation, parce que j'en sors 15 de suite. Toi t'en sors un au bout d'une heure, c'est moins drôle, je dis. Et donc nous avons un gagnant. Et ce gagnant, c'est en 4 lettres.
4 lettres. Bilo?
Eh, c'est Bilo, bravo! C'est Bilo, donc, il vous proposait cette question. Pourquoi les coups de Sumatra, à ne pas confondre avec Kamasutra, ne devraient-ils pas être frappés?
C'est les coups COUPS, ça?
Oui, les coups de Sumatra ne devraient-ils pas être frappés durant le Grand Prix? Pour répondre, vous connaissez la marche à suivre. Hein. Il suffit d'aller sur fanf1.com, rubrique en plus. En plus, il y a contacter nous. Et vous choisissez comme destinataire le SAV. Mais à la limite, le plus simple, hein, comme vous êtes à la radio, le plus simple, c'est savf1.yahoo.fr. Vous nous N'oubliez pas de nous poser une question pour le Grand Prix suivant, qui sera le Grand Prix donc du Japon, de nous fournir une réponse, en plus de la réponse à la question proposée par Bilo, bien évidemment. Ne faites pas un concours, les mecs, d'accord? Parce... Pensez à moi un peu, parce que là, quand même... ce soir, j'ai bien bossé, quand même. Donc, laissez-moi au moins un Grand Prix de pause, hein? Merci.
Non, mais c'est bon, là, je veux dire, ça va être une réponse logique, voilà, on a fait deux trucs un peu, oui. Voilà.
Quoique, moi, je sais, rien ne m'étonne chez eux maintenant. Donc on peut quand même saluer donc Bilo, hein, c'était ouais, celui qui avait pris deux escargots, hein, cette année, celui qui avait pris deux escargots dans son jardin, il les avait emmenés à Monza.
Écoute, il a fait des efforts, c'est normal que... Non,
voilà. Donc ensuite, on a Steve qui était celui qui avait remarqué que Kartikeyan finalement n'était pas le plus lent à Monza, hein, qui avait l'escargot qui était plus lent, et qui nous avait posé la deuxième question sur laquelle tu as hésité, celle des petits problèmes de maths. On avait ensuite la question de Zilex qui nous avait parlé lui de qui avait fait le calcul etc, et que sa question c'était celle sur le montant des amendes infligées par la FIA en 2010. D'accord. À Singapour, ouais. Et la dernière question, alors là c'est le gros morceau, hein, le début, ouais. Monsieur Schnellban, c'est Globen.
Globen, il faut arrêter la drogue.
Voilà. Qui posait une petite question piège, parce que Globen, il aime bien les questions pièges, hein, qui était le circuit de Marina Bay est caractérisé dans sa vue aérienne par un croisement qui réunit les virages, ouais. 8-14. Alors, on aurait tendance à se dire qu'il y a deux rues, mais en fait, non, c'est quatre rues.
Quatre rues?
Elles ont quatre noms différents.
Ah bah, c'est un croisement.
Voilà. En... Donc, ça fait deux grandes rues qui se croisent, mais en fait, il y a quatre rues.
Il y a quatre rues, ah oui.
Bon voilà, c'était le concours, top
merci.
Up aussi. Oui, mais merci à vous.
On va passer à la prochaine course. Comme tu l'as dit, on sera à Singapour.
Ah ouais.
Tonight.
Moi, je sais pas si je vais y aller.
C'est un petit peu plus loin, là, déjà.
Bah ouais. Non, puis tu vois, autant à Monza, j'avais des raisons d'y aller, mais là, à Singapour, est-ce que j'ai des raisons d'y aller?
Ah oui.
Je sais pas.
Kevin, est-ce que tu, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense qu'il faut pas y aller.
Ah.
Même, j'ai trouvé que 5 raisons de ne pas y aller, en fait.
Ah, tu vas avoir deux gages.
Ah.
J'ai vraiment galéré pour trouver les deux autres, et la première, c'est de, au pire, ça sert à rien d'aller, de se déplacer à Singapour, pour, aller voir, pour ça. J'ai vraiment du mal à m'exprimer ce soir. Au pire, c'est pas la peine de
non,
se déplacer.
Arrête de nous faire croire que c'est que ce soir. Arrête. Tous les Kevin ont un peu de mal à s'exprimer.
Et après, il dit, ouais, mais je suis nul.
Mais je fais que redire ce que t'as dit avant l'émission. Non, j'adore les Kevin, non, sérieux.
Donc, je disais. Au pire, c'est pas la peine de se déplacer jusqu'à Singapour, puisqu'on sait déjà que Vettel va gagner. C'est pas non plus la peine de se déplacer à Singapour pour voir des dépassements aidés par le DRS. Autant rester chez soi.
Ouais.
Si Massa abandonne et que Alonso gagne, on va encore avoir une polémique Crashgate.
Tout de suite, pourquoi comme par hasard sur... Mais c'est Renault qui a fait sa merde parmi nous. Tout de suite, on d'accord, on a le même pilote, mais quand même, merde.
Ensuite, personnellement,
il faut retenir l'idée. Je vais appeler Stefano, parce que j'ai vu Stefano. Je vais l'appeler, je vais dire Stefano. Ouais, bah ça dans le mur, ça peut le faire.
Personnellement, après, ça c'est un avis qui n'engage que moi. Le circuit de Singapour, c'est pas un circuit qui fait palpiter à chaque fois. En plus, avec le décalage horaire, on risque de s'endormir dans les tribunes.
C'est vrai. En quoi que ce soit à l'européenne, comme font les équipes.
Et ensuite, entre le prix de du billet d'avion France-Singapour et le prix d'une place à Marina Bay, ça risque de revenir très cher. Voilà.
Il te manque donc deux.
Oui, il m'en manque deux.
Ah, et qu'est-ce qu'on va lui faire faire, j'ai dit.
Mais faut que ça soit un truc pour avant la fin de l'émission, parce qu'après on pourra pas.
Ouais. Faudrait qu'on lui fasse chercher un truc bien pourri sur internet, tu vois.
Ouais.
Genre, mais vraiment un truc bien pourri. il va pas lui rester longtemps, puisqu'on va se dire au revoir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire chercher?
Déjà, est-ce qu'on lui fait chercher un truc en rapport avec l'AF?
Ouais.
Quand même, ouais.
Là, on va lui faire chercher deux trucs. On va lui faire chercher le nombre de Kevin qui sont nés en France en 1974. Voilà.
Ouais,
c'est 1974.
Ouais, le nombre de Kevin qui sont nés en France en 1974.
D'accord.
Attention, on vérifiera. Et ensuite, un truc en rapport avec la Formule 1, on voudrait la racine carrée de l'angle de carrossage autorisé par Pirelli en Belgique.
Je note.
T'as vu, j'ai dit, on leur donne des gages, on est...
90 Kevin sont nés en France en 1974.
Il y a des vieux Kevin, alors.
Vieux, ouais.
74, c'est plutôt jeune, c'est 37 ans. Oh, oui. Il y a des Kevin qui ont 37 ans.
Il y a Kevin Kessner, hein.
Kevin Costner, c'est un Kevin? Arrête, je suis fan de Kevin Costner! C'est un Kevin? Gigi, me dis pas que c'est un Kevin!
Ah bah dans Waterworld, ouais, hein, c'est clair! Hein.
Ah ouais, c'est vrai! Mais Kevin Spacey aussi, c'est un Kevin alors! Oh la vache!
Ouais. Hey, pour te donner une idée en comparaison, là, je viens de tomber sur Wikipédia en 91. Donc vous avez noté, en 74, il a dit qu'il y en avait combien?
90.
90. En 91, il y en a eu 14087.
Non mais faut quand même, on va laisser un peu chercher, faut quand même rassurer, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un Kevin, c'est une espèce de figure populaire maintenant, le Kevin.
Ah tiens, je suis sur la page, hein, de Kevin de Pedia. Stéréotype, dans la communauté internet, un Kevin désigne un internaute jeune, novice et agaçant.
Voilà.
Ah, c'est pas moi, c'est Wikipédia.
Mais c'est vrai, enfin,
c'est les Wikipédia, c'est pas la désencyclopédie.
C'est très injuste pour les Kevin, parce qu'on voit bien que Kevin, c'est pas un vrai Kevin, il a pas de bouton. Non, mais on voudrait pas se fâcher avec les Kevin. Alors, Kevin?
Je cherche.
La racine carrée de la vitesse, enfin de l'angle de carrossage de la Belgique. C'était combien l'angle de carrossage de la Belgique?
Je sais même pas.
Allez, Chini, donne-lui.
C'était pas limité à deux quelques?
Bon, vous suivez pas la Formule 1, vous lisez pas les articles qui sont,
et tu l'as dit,
qui sont
en
sur
plus,
Fan F1. C'est 4.
4, ah.
Voilà, maintenant il suffit juste de faire la racine carrée de 4.
Bah, 2.
Attends, c'est quoi la racine carrée de 4 déjà?
C'est 2.
Non, alors vous avez l'air
là, c'est toi qui fais le Kevin. Là, c'est toi.
Attends, racine carrée, c'est où ça? Ah, je vais vérifier. Pas... Non, parce qu'après, on va se faire arnaquer, Shinji et tout. Merde, comment on fait la racine carrée là-dessus? Ah ouais, c'est deux.
C'est l'espèce de, v, de petit V, de V, là.
Mais non, mais c'est bon, je sais, que c'est, je sais aussi ce que c'est une racine carrée, je dis, pas pour un
Kevin. Ah bah, visiblement, t'as du mal, hein, pour faire une racine carrée de 4.
Bon, ça va, tu n'es pas un Kevin, plutôt moi, en ce moment.
Oui, là, c'est plutôt toi.
Bon, c'était un bon top 5, plus 2.
Ah. Rappelle-toi que 1 plus 1, ça fait 2. Hein, ça...
Ah, de notre gueule, ouais, à nous les Kevin, nous sommes une race de gens très honnêtes, hein. T'es injuste envers les Kevin, tu nous méprises.
Tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser à Cartman dans un épisode de South Park, qui arrête pas de cracher sur les roues, et après il devient roux, et il devient une espèce de leader des roues, tu vois. Lui, c'est pareil. Il crache sur les Kevin, et quand on se rend compte que lui aussi on est un, là, il défend le Kevin. Allez, on va parler pour nous pour Singapour quand même.
Allez, Weber, pour changer.
Oh, j'aurais bien Hamilton pour une fois s'il se crache pas.
Mais non, mais de toute façon, ça va être comme d'habitude. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Enfin, je suis entouré de Kevin en plus ce soir, c'est dingue.
C'est ce qu'ils disent les Kevin.
Donc déjà, merci à Kevin, pas toi Dino, hein, notre vrai Kevin. Merci pour ta participation.
Bah de rien, c'était avec un grand plaisir. Non, franchement, c'est j'ai passé vraiment 3h14 bien sympathique.
Ah là, quand on dit ça, oh, 3h14, oh quand même les gars, non. Faut pas dire ça, les gens ils vont avoir 2h05, 2h10 max.
Ils vont prendre peur en plus.
Non mais c'était un plaisir. C'est surtout un plaisir de recevoir des nouveaux auditeurs. Ça,
ouais.
Depuis le début, on a reçu pas mal d'anciens. On devait recevoir des nouveaux un peu plus tôt dans la saison, mais ça n'a pas pu se faire. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous êtes des nouveaux, on est ouvert. Tant que vous avez l'esprit SAV, on voit qu'à chaque fois, quand vous voulez venir, vous avez le même esprit que nous. Si vous écoutez l'émission, voilà, vous avez le même esprit, etc. Et, bah, nous, les portes sont ouvertes. On essaie de faire du mieux possible et pour laisser chacun s'exprimer et exprimer sa passion à sa manière.
Alors, juste avant qu'on se quitte, je voudrais noter un truc. Vous savez qu'on aime bien parfois vous parler des DVD, des films, des choses comme ça. Hein, et souvenez-vous, au mois de juin, il y avait un film qu'on espérait tous qu'il sorte, et puis quand il est sorti que dans 4 salles. Vous vous souvenez, le fameux documentaire sur Senna? Eh bien, on a la date de sortie, hein, merci Amazon, du Blu-ray et du DVD. Donc ça va sortir apparemment, c'est annoncé pour le 25 octobre, sur Amazon. Alors c'est au niveau des tarifs, hein, c'est annoncé à 20 €, que ce soit pour le Blu-ray ou le DVD. Et apparemment, il y aurait un coffret DVD, alors qui serait autour de 40 €, qui serait apparemment avec un livre, mais alors par contre, on n'a pas plus de précision sur quel livre c'est. Bon, forcément
un chapitrage.
Livre là. Ouais, un livre de 150 pages juste pour le chapitrage du DVD, ouais, bien sûr. Donc voilà, à moins que ce soit peut-être justement les photos des images qu'on voit dans le film, qui sait.
Le truc horrible, c'est que les mecs, ils font un DVD avec des images animées et de l'autre côté, ils font un bouquin. En fait, le bouquin, tu prends entre tes mains, tu fais passer vite fait les pages et t'as l'impression de faire un film.
Voilà. Enfin, en tout cas, il y a un truc avec le DVD, mais bon, on sait pas encore trop. Alors, je crois qu'ils sont déjà en précommande sur Amazon, mais c'est encore dans un petit peu de temps. Mais voilà, c'est annoncé pour le 25 octobre.
Et justement, en parlant d'Amazon, Shinji.
Oui.
C'est une transition énorme. Je rappelle que nous aimerions avoir une fille d'ici la fin de saison dans l'émission.
C'est vrai.
Maëlle, on pense à toi notamment, hein. Si tu nous écoutes. Normalement, tu nous écoutes puisque, hein, tu réponds aux questions qu'on contre-position. Donc, tu sais que c'est à toi qu'on parle.
Là, s'il vous plaît, c'est quand même cette année, on a eu droit au Kevin, on a eu droit au Belge, hein.
Oui, voilà.
Excusez-nous, au niveau des quotas, on peut rien nous dire, nous, hein. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous nous écoutez. Et comme d'habitude, hein, c'est même plus l'instant culture parce que de toute façon on n'y comprend plus rien maintenant. On se fausse, c'est vrai, si c'est vrai. On se quitte sur ces quelques mots de poésie, mais bon, on va essayer de comprendre. Hein. En même temps, on a 2 semaines, hein, voilà. Donc on vous quitte sur ces quelques mots. Allez, ciao.
Above ante, abasino retro. Astulto undique cavetto.